L'IFAO, l'Institut français d'archéologie orientale, qui est le plus gros institut de recherche étranger implanté en Égypte depuis 1880 et qui a quelques 25 missions travaillant sur le terrain. Donc j'ai eu l'occasion, en dirigeant cette belle maison, d'avoir un panorama relativement étendu de ce qui pouvait se faire en termes de fouilles. Et je souhaiterais donc aujourd'hui, à la fois pour ceux d'entre vous peut-être qui sont moins familiers avec les travaux archéologiques en général, commencer par une partie sur les méthodes utilisées, pour ensuite donc zoomer sur des zones, des types de travaux particulièrement innovants qui ont été développés, je dirais, dans les 10 dernières années. Donc les méthodes d'abord qu'utilisent les archéologues égyptiens. Alors bon, ils n'ont pas, enfin quand je dis égyptiens, encore une fois, qui travaillent en Égypte, parce que les gens qui travaillent en Égypte finissent par se considérer comme des Égyptiens eux-mêmes, mais ils peuvent être de différentes nationalités. Il y a actuellement plus de 250 missions étrangères qui travaillent en Égypte, sans compter toutes les missions des Égyptiens eux-mêmes, évidemment, qui fouillent leur propre pays, et on ne sait pas à eux combien ils représentent de travaux, même si en ce moment les choses sont un peu à l'arrêt depuis la Révolution. Ça continue quand même à fouiller assez activement, de façon officielle. Donc, quand je dis archéologie égyptienne et archéologue égyptien, je dis les personnes qui travaillent en Égypte, quelle que soit leur nationalité, utilisent donc des pratiques qui ne sont pas bien différentes, hein, de ce qu'on peut trouver en archéologie métropolitaine. Et même si les terrains sont de nature géologique souvent assez particulière et un peu distinguée de ce qu'on trouve en Europe, les outils d'investigation ne sont pas fort différents. Donc je disais que ce en quoi peut-être les égyptologues ont une approche un peu différente, c'est qu'en général, tout travail d'approche de terrain en Égypte, tout début de fouille, tout début de projet, commence par une exploration de ce qui existe comme documentation sur le sujet. Et comme vous le savez sans doute, les Français sont assez bien placés dans la course à l'information sur le terrain égyptien depuis la description de l'Égypte publiée en gros dans le premier quart du XIXe siècle à la suite de l'expédition de Bonaparte en Égypte. C'est un recueil de matériaux absolument considérable qui vaut pour les sites moins connus, aussi comme pour les plus connus, et qui nous permet d'avoir une vision des terrains tels qu'ils étaient il y a plus de 2 siècles maintenant. Avec l'idée qu'il y a eu de nombreuses destructions qui sont intervenues au XIXe siècle au cours de l'industrialisation du pays. L'habitude était fréquemment de démonter des temples existants comme celui-ci, par exemple à Hermande, pour construire des usines avec ces pierres pharaoniques. Donc il y a beaucoup de choses qui ont disparu entre la fin du XVIIIe siècle, où Bonaparte était en Égypte avec ses savants, et puis l'époque actuelle et la démographie galopante de l'Égypte, évidemment, n'arrange pas beaucoup la situation de la pression sur les monuments. Bon, ici, par exemple, un plan du fameux temple d'Amon à Karnak, hein, qui représente comme une vision aérienne du terrain et qui montre la qualité de ces plans. Beaucoup de ces monuments ne sont plus aussi clairement visibles aujourd'hui, alors pas dans l'enceinte principale, mais dans les enceintes périphériques. La topographie générale a changé et c'est un document extrêmement précieux qui est utilisé jusqu'à aujourd'hui, hein, par les archéologues à titre préliminaire, comme le sont différents documents de fouilles, hein, qui peuvent être conservés dans des archives nationales ou privées. Par exemple, ici, un cahier de fouilles, alors quelquefois c'est très sommaire, hein, mais un bout de plan, un bout de croquis, 3 notes, ça peut être extrêmement intéressant pour le photographe, pour le topographe moderne. On a aussi bon, toute une série d'archives, alors qu'on s'est beaucoup conservé à l'Institut de France, d'autres dans des bibliothèques d'université, par exemple, ou chez des particuliers, qui permettent de bien préparer sa mission et de se lancer sur le terrain. Alors, je vous propose de commencer donc par la présentation de quelques méthodes qui, avant même de fouiller, parce que la fouille est une démarche onéreuse, hein, fouiller, ça veut dire qu'il faut des ouvriers, bon, il faut déjà un encadrement, évidemment une équipe assez compétente d'archéologues et différents spécialistes. Il faut, sur le terrain, on travaille avec des ouvriers égyptiens, donc il faut recruter ces gens, les salariés, pendant un certain nombre de semaines, et on a souvent beaucoup de matériaux à déplacer, hein, de couches de terre ou de sable, qui sont pas directement utiles pour la connaissance, ou du moins qui livrent une quantité d'informations relativement limitée par rapport à l'investissement qu'ils supposent. Les montagnes de sable dans le désert, par exemple, avant d'arriver à ce qu'il y a dessous, c'est toujours un énorme travail de déménagement, et même si on sait que c'est utile et indispensable, ça n'est pas forcément le but principal de la présence des équipes sur le terrain. Alors, on peut prendre comme exemple de méthodes qui permettent de préparer un travail et de cibler l'intervention sur un vaste terrain. Un site qui, comme vous le voyez, a une apparence assez lunaire ici, qui s'appelle Bawit, qui est situé en Moyenne-Égypte, hein, donc à peu près ici, à peu près à la hauteur d'Assyut, ce qui est la grande ville de Moyenne-Égypte, c'est-à-dire au milieu entre le Caire et l'Éléphantine, en gros, à Souan. Donc ce site, qui est aujourd'hui encore en plein désert, avait été fouillé dans le début du XXe siècle, dans les années 1910-1913, par une équipe française déjà. Alors avant d'attaquer ce vaste terrain, qui présente plusieurs éminences qu'on appelle des combes en Égypte, c'est-à-dire des empilements de couches archéologiques, hein, qui marquent le paysage. Vous voyez ici un paysage assez moutonné avec la lisière des cultures derrière. Évidemment, on se demande, on va fouiller sur des zones de plusieurs dizaines de kilomètres carrés, et pour ça, on a recours à des stratégies d'exploration qui sont relativement rapides, comme par exemple les prospections géomagnétiques qui, dans des terrains sablonneux, permettent de distinguer assez clairement des lignes de murs enfouies dans le sable, dans la mesure où les briques, qu'elles soient crues ou cuites, renvoient des signaux magnétiques, c'est simplement un système de radar qui envoie des ondes dans le sol, et là où il y a du matériau résistant, alors que ce soit des tessons, que ce soit des murs, le sol renvoie un signal qui est ensuite donc capté par ordinateur, reporté sur une carte topographique avec un quadrillage, et on réussit ainsi à tirer. Alors je suis désolée, j'ai peur que mes diapositives ne soient assez floues en général, mais celle-là doit l'être sur la partie droite, parce que c'est effectivement ce qu'on voit sortir de la prospection géomagnétique, c'est-à-dire un filet de points quelquefois pas très net, mais qui permet quand même de voir des structures, et dans l'occurrence donc qui a permis par exemple de raccorder des plans anciens qui avaient été publiés en 1913 avec ce qu'on pouvait voir sur le terrain en 2002-2004 quand la prospection géoarchéologique a eu lieu. Donc vous voyez que ce bâtiment appelé 19 par le fouilleur initial est resté effectivement à la même place, et on arrive à retrouver un certain nombre d'autres structures qui manifestement se sont conservés à l'identique. Donc comme on ne disposait pas d'une carte générale du terrain, on ne savait pas du tout où ce plan partiel ancien avait été levé, là on a réussi à le repositionner sur le terrain sans avoir à déménager des dizaines de milliers de mètres cubes de sable. Donc ce genre de méthode peut être appliqué par exemple en terrain, quand le terrain est assez meuble, hein, et ça marche très très bien dans les environnements désertiques et sablonneux, beaucoup moins évidemment quand on est dans de l'argile, dans du limon, dans des tessons, parce que là il y a beaucoup de choses qui sont très résistantes et donc le signal envoyé est un petit peu brouillé. Alors un système d'exploration du sol aussi qui est assez courant et dont j'ai pas d'illustration là, ce sont les carottages, hein, c'est-à-dire ça consiste à aller chercher avec une foreuse, hein, d'aller chercher des échantillons de terre sur une certaine profondeur. Alors on peut maintenant, avec des machines très performantes, faire des carottes extrêmement profondes. Bon, l'archéologue en général n'ayant pas beaucoup de crédit, il y a une petite machine qui fait fonctionner à la main, donc ça reste assez limité, mais on peut quand même aller voir jusqu'à des 10-12 mètres et remonter donc des échantillons de sol de forme cylindrique, hein, qui ressemblent effectivement à des carottes, et qui permettent de voir donc sur cette petite zone circulaire qu'on a forée, qu'est-ce qu'on trouve comme couches. Est-ce que les couches sont des couches de sable? Est-ce que ce sont des couches vides d'occupation? Est-ce que c'est plein de tessons? Est-ce qu'il y a des cailloux, etc. Donc on peut à ce moment-là donc analyser, lire, hein, cette stratigraphie, qui est un des outils de compréhension du terrain, savoir combien de couches se sont accumulées consécutives à quel phénomène humain ou naturel. C'est toute la démarche de l'archéologue actuel, ça l'a pas été toujours, mais en tout cas dans l'archéologie contemporaine, c'est un petit peu ce qui se passe dans les problématiques d'équipe. Et encore une fois, qu'on soit en France métropolitaine ou n'importe où ailleurs dans le monde, l'archéologie à peu près partout la même démarche. Alors, vous allez trouver que je vous parle de façon appuyée d'une zone d'Égypte que je connais quand même un petit peu mieux que le reste pour y avoir travaillé moi-même pendant une petite trentaine d'années. Ce sont les oasis du désert libyque, terrains nouveaux qui se sont ouverts à l'exploration archéologique, surtout du moment où on a eu des moyens de déplacement plus performants, donc la possibilité d'aller dans le désert avec des voitures 4x4 qui peuvent passer à peu près partout, hein, des tout-terrains, et du coup de transporter plus facilement des personnes, des infrastructures, de la logistique, hein, pour permettre rester un certain temps dans le désert. En l'occurrence ici, il s'agit d'oasis, donc on a un approvisionnement en eau, mais d'autres équipes travaillent effectivement en milieu totalement aride et sont obligées de se déplacer avec l'ensemble de leur kit de survie, si je puis dire, nourriture, eau et outils nécessaires pour le travail archéologique. Dans ces, alors ces oasis, là, ma carte est un peu courte ici, mais ces oasis donc étaient dans l'Antiquité, on vient de s'en apercevoir, enfin relativement récemment, étaient des étapes assez importantes pour les circulations que les Égyptiens entretenaient avec ce qu'on pourrait dire la Centrafrique en général, hein, c'est-à-dire la connexion avec des pistes qui lui permettaient de se déporter vers le sud-ouest du pays jusqu'à atteindre à peu près la zone, pense-t-on, du lac Tchad, même si pour l'instant on n'a pas de traces archéologiques de cette destination. On pense que c'est à peu près à ça que tendaient ces expéditions qu'on a identifiées récemment. Alors, sur des portées pareilles et dans des zones aussi difficiles à explorer physiquement, je dirais, là, on a de plus en plus recours maintenant à la photographie satellite, qui est assez facilement accessible. Hein, sur un Google Earth même, la plupart des cartes ont des échelles extrêmement satisfaisantes où on voit toutes sortes d'accidents de terrain très intéressants. Alors ici, bon, l'échelle est assez éloignée du sol, mais ça permet de couvrir donc une zone importante entre l'oasis de Darla, donc qui est la plus au sud de celle qu'on voit tout à l'heure, et cette montagne qu'on appelle le Gilf Kébir, hein, qui est un vaste plateau au milieu de nulle part aujourd'hui, mais qui dans une antiquité, enfin à l'Holocène bien sûr, mais encore au début de la période pharaonique, était quand même accessible relativement facilement, moyennant un peu d'organisation, parce qu'il y avait encore un peu d'eau résiduelle dans le désert, il y avait des points d'eau qui permettaient d'y circuler, pas d'y vivre, mais en tout cas d'y circuler et d'y survivre pendant un temps limité, si on était suffisamment bien organisé. Et on reparlera tout à l'heure donc de cette route qui a été dépistée par les collègues allemands de l'Institut de Heinrich Barth de Cologne, hein, sur la connexion entre l'oasis égyptienne et puis cette zone de désert. C'est d'ailleurs dans la recherche des routes, hein, que ces photosatellites sont assez souvent employés. Mais ici, une autre photo, alors qui est très jolie en tant qu'objet coloré, comme ça, pas clair immédiatement. Il s'agit de plusieurs sections de la vallée du Nil. Vous voyez ici le Nil avec son ruban vert. Ici, on est du côté des oasis. Et entre les deux, on distingue, hein, sur les photographies satellites, donc des tracés qui correspondent à des pistes, alors certaines anciennes, d'autres plus récentes. Et c'est après le travail de l'archéologue d'aller sur le terrain, vérifier les hypothèses qui se sont posées, qui ont été suscitées par l'observation de ces documents données à partir du ciel. Alors, dans cette démarche, justement, dans l'oasis de Harga, par exemple, un des programmes importants de l'Institut français d'archéologie, c'était d'essayer de comprendre comment avait été occupée cette oasis aux différentes époques, puisqu'on a des peuplements plus ou moins actifs selon les périodes, donc des populations plus ou moins importantes, et donc des implantations plus ou moins visibles dans le paysage. Par exemple, pour le troisième millénaire, on n'a pas grand-chose du tout. Au deuxième, on a assez peu de choses. Et puis, ça devient très actif au premier millénaire avant notre ère, où passent en Égypte les Perses, comme vous le savez, à partir du VIe siècle. Ensuite, les Grecs, les Romains, etc. Tout un monde qui s'implante en Égypte et qui met l'Égypte dans un empire méditerranéen. L'Égypte devenant, on le sait bien, le grenier à blé de Rome, par exemple. Et donc, l'agriculture étant particulièrement active à ce moment-là. Alors sur ce très joli dessin plein de couleurs fourni par un de mes collègues travaillant sur le projet, donc on a les différentes traits physiques, hein, donc les puits, les bassins qui sont représentés en bleu, et puis donc dans des tâches différentes les autres types d'occupation et les périodes. Donc on a des zones qui sont occupées à des moments différents. Et il est bien évident qu'à l'échelle de ce territoire, hein, vous voyez l'échelle est de 500 mètres, donc on a quelque chose comme, en gros, une zone, disons, de 2,5 km sur 2,5. Bon, si on explore ça à pied, ça prend un temps infini. À partir de la photo satellite, c'est quand même plus facile de faire un pré-repérage et ensuite d'être efficace en prospection pédestre. Donc ça, c'est la technique qu'on appelle, du mot anglais, de survey, qui permet, en général, de couvrir superficiellement des zones vastes, alors que la fouille, par définition, permet d'explorer intensivement des zones assez petites, étant donné qu'elle est en général à durée et à moyens limités. Alors la fouille à proprement parler se pratique en Égypte. Alors il y a de plus en plus de fouilles de sauvetage, mais généralement les fouilles sont programmées sur d'assez longue durée, dans des cadres institutionnels assez stables. Donc, on peut engager des projets au moins sur 4 ou 5 ans. Et on a des méthodes diverses d'abord, selon les natures de terrain. Alors, il y a encore des collègues, comme ici, par exemple, dans le Delta, où le terrain est toujours très très humide et très difficile à analyser, donc il faut laisser sécher les choses un certain temps. On a plutôt des gens qui pratiquent la méthode dite de Wheeler Canyon, c'est-à-dire une méthode de fouille en carré, où par sécurité, on laisse toujours une partie de l'ancien terrain, un réseau de voies de circulation, en quelque sorte, qui servent d'abord aux archéologues à circuler, ça a marché à chaque fois sur la fouille, et puis qui donc en coupe préserve un profil du terrain tel qu'il était durant la fouille, avant la fouille, et permettent donc de garder une sécurité, de s'assurer qu'on n'a rien laissé passer et que tout ce qu'on a vu au fur et à mesure qu'on dégageait les couches reste visible dans la stratigraphie verticale qui est préservée dans ces voies de circulation qu'on appelle des bermes. Alors, d'autres méthodes consistent, qui sont, les plus, disons, dans le milieu français les plus utilisées, consistent, comme c'est ce que nous faisons par exemple ici à Coptos, à simplement peler le terrain couche par couche. Donc, on descend jusqu'à ce qu'on identifie une différence de consistance dans le terrain. À partir de là, donc, on enlève tout ce qui correspond à la consistance de la couche supérieure pour ensuite dessiner, photographier, etc., documenter, niveler, puis retirer cette couche exposée et ainsi de suite, hein, jusqu'à ce qu'on arrive à un niveau d'arrêt. Alors, il y a des sites où on pourrait continuer longtemps. En général, à un moment donné, on détermine qu'on a atteint ce qu'on cherchait, ou bien que si on continue à descendre, on va abîmer le terrain de telle façon qu'il va devenir illisible, puisqu'il y a toujours quand même un souci de présentation et de lisibilité du terrain de fouille après la fouille, hein, que les gens qui visitent puissent comprendre un petit peu ce qui s'est passé et de quoi on a voulu, enfin, ce qu'on a voulu dégager. Hein, les livres, les publications existent aussi, mais généralement, les touristes, par exemple, qui passent sur un terrain n'ont pas forcément la dernière publication de fouille sous le bras, donc c'est bien qu'on garde quelque chose de lisible sur le terrain et de présentable. Alors, ces couches ne sont pas forcément... Alors, à Coptos, on a beaucoup ailleurs, hein, beaucoup de sable, beaucoup de choses qui sont, en fait, le produit des fouilles antérieures, hein, puisque dans les... Alors, je n'ai pas présenté ça parce que ce sont des méthodes un peu dépassées, mais à l'époque de nos grands maîtres fondateurs de l'archéologie égyptienne, on fouillait un petit peu à la terrier de renard ou de lapin, c'est-à-dire qu'on faisait plutôt des tranchées pour aller chercher des choses ici et là, sans se soucier de laisser le terrain dans un état présentable, justement. Donc, on a pas mal de tas de déblais, hein, qui ont été posés par les archéologues des missions antérieures, à droite et à gauche. Donc, il faut d'abord commencer par enlever tout ça avant d'arriver à des choses qui soient effectivement des résultats d'occupation antique. Il y a souvent sur les terrains aussi, et c'est des indices précieux pour les archéologues, des grosses ou des petites couches de sable qui représentent des périodes d'abandon, c'est-à-dire qu'il n'y a rien eu sur le terrain, c'est un terrain vague. À ce moment-là, le sable est arrivé, puisqu'il y a beaucoup de vent sableux en Égypte, comme vous savez, dans toutes les régions, dans le désert spécialement, mais aussi dans la vallée. Et à ce moment-là, donc, ça permet de déterminer, souvent même pas la durée, mais en tout cas l'existence d'un abandon et le fait que la ville, par exemple ici à Coptos, s'est déplacée ou n'était pas occupée dans ce quartier-là pendant un moment. Alors, le fouilleur produit une quantité d'objets qu'ensuite il doit analyser. Et la fouille n'est que le début, souvent maintenant, de ce qu'on appelle la post-fouille, c'est-à-dire une période généralement assez longue, qui est prise en charge non plus par le fouilleur lui-même, mais souvent par une armée de spécialistes. Alors, ceux qui s'occupent de la céramique, ça c'est depuis longtemps connu, hein, les céramologues, donc qui s'occupent d'identifier les formes céramiques. Alors, on peut prendre ici, par exemple, un exemple de céramique dans une galerie au bord de la mer Rouge, dont on reparlera tout à l'heure plus en détail. Donc voilà, de milliers de tessons appartenant à des pots qui ont été cassés sur place. Donc on sait qu'on a normalement tous les tessons de tous les pots. Donc le jeu, c'est de les recoller pour savoir combien il y en avait, quelle contenance ils avaient, etc. Est-ce qu'ils étaient inscrits ou pas inscrits, ainsi de suite. Donc vous voyez que ça, c'est des travaux évidemment extrêmement prenants. Tout ce matériel, naturellement, est enregistré, inventorié, bon, nettoyé, lavé pour les tessons, inventorié, photographié, dessiné en vue de la publication. Donc, c'est un énorme travail qui, en fait, la fouille n'est que le début, hein, d'une opération qui ensuite prend plusieurs années, quand ce n'est pas, comme c'est souvent le cas, plusieurs dizaines d'années, si on veut faire les choses correctement. Alors, à côté de l'archéologue, interviennent sur le terrain maintenant, très souvent, au niveau justement de la fouille et des prélèvements, toutes sortes d'autres collègues qui ont vraiment leur spécialité bien avérée, qui souvent viennent d'ailleurs sur la mission pendant un temps limité, comme par exemple les anthropologues, hein, qui viennent, donc ça c'est un chantier en France, avec un terrain particulièrement boueux, donc on a rarement ça en Égypte, même dans le Delta, mais ici, donc on voit une fouille, hein, donc ce sont généralement les spécialistes qui fouillent eux-mêmes leur squelette, par exemple, quand on est dans un contexte de cimetière, de manière à pouvoir tirer toutes les informations que donne la disposition des corps, la disposition des os, et ainsi de suite. La même chose se passe pour les ossements des animaux, qui sont également prélevés, alors ramassés, là on ramasse ce qu'on trouve, hein, ce qu'on identifie comme étant des fragments d'eau. Il y a des collègues, alors en particulier des collègues américains, qui fouillent au pied des pyramides de Giza, qui eux ont adopté une technique alors vraiment entière et complète de lavage de tous les déblais qui sortent de leur fouille, c'est-à-dire que chaque pelletée de terre est mise dans l'eau de manière à ce que l'argile et les matériaux lourds descendent et puis les matériaux plus légers comme les os flottent, donc on a des végétaux, des fragments d'ossements qui flottent et qui ensuite sont analysés esquille par esquille. Alors, généralement, sur les fouilles françaises, on a des méthodes un peu visuelles, enfin, de repérage visuel des os, qui permettent de, ensuite de dresser des sortes de cartographies des squelettes animaux de façon à, alors, de façon assez logique, évidemment, il y a toujours plus de pattes conservées dans les squelettes, ne serait-ce que par le fait qu'il y a 4 pattes pour chaque colonne vertébrale, comme vous imaginez assez facilement, que certaines parties du corps étaient consommées de préférence à d'autres, etc. Et en étudiant, par exemple, les dents des animaux, si on a la chance d'avoir des mandibules ou des parties des têtes conservées, on peut à ce moment-là déterminer l'âge de l'animal et savoir s'il a été abattu à tel âge ou tel autre, si on l'a tué jeune pour le manger ou si au contraire on l'a conservé pour qu'il puisse travailler comme animal de traction, ou si les vaches par exemple ont été gardées pour faire du lait jusqu'à ce qu'elles aient 6 ou 7 ans, etc. Donc on peut déterminer toutes sortes de choses intéressantes sur le comportement autour de l'animal, la consommation, bien sûr, mais aussi l'utilisation et l'implication dans les pratiques et finalement rapport social, on va dire, à l'animal. Y inclut les transformations qui, par exemple, transformation d'eau de ce qu'on appelle des ovis caprinés, puisque souvent c'est difficile de distinguer le mouton de la chèvre. Il y a des petits os différents, mais très spécifiques. Donc, on parle d'ovis caprinés en général, donc soit du mouton, soit de la chèvre, dont les ossements servaient à les os des pattes en particulier arrière, servaient donc à faire des outils, des poinçons, des manches d'outils divers, etc. Donc tout ce qui est études environnementales a pris ces dernières années beaucoup d'importance. Alors c'est le reflet de ce qui se passe dans la société. On voit que la préoccupation pour l'environnement, bien sûr, grandit chaque jour, et je crois avec raison. L'archéologue donc n'est pas lui exempt de ses préoccupations environnementales et s'inscrit dans ces sciences de la société qui réfléchissent sur l'environnement. Et là aussi, par des fouilles soigneuses, on peut identifier des éléments végétaux. Alors quelquefois ça peut être des éléments importants, comme ici par exemple ce qui reste d'une base de palmier, donc ça c'est relativement visible à l'œil nu, on va dire. D'autres méthodes, donc comme par exemple le flottage, hein, le lavage des sédiments, permettent de faire ressortir des éléments beaucoup plus fins, comme ici par exemple des fleurs d'acacia, toutes sortes de parties de la plante, qui permettent ensuite d'identifier les arbres ou les céréales par exemple qui étaient cultivées, et de reconstituer l'environnement, l'alimentation. Là aussi, ça a beaucoup d'implications pour notre vision très précise des conditions de vie des populations antiques. Alors, avec ces techniques-là, donc on a déjà au moins l'identification des éléments. Donc, on peut faire une liste des, par exemple, des animaux ou des végétaux présents dans tel contexte. Alors, ensuite, il y a une autre démarche qui consiste à faire émerger l'âge de ces sédiments en les datant. Et ça, c'est un des... Il y a différentes méthodes de datation. Celle qui était pratiquée à l'Institut du Caire, c'était celle dite du carbone 14, qui consiste donc à prendre sur des fragments de quelques millimètres. Alors toute une série de... Alors je ne peux pas vous raconter dans le détail comment ça marche, parce que je suis pas sûre d'avoir vraiment bien compris, mais après avoir fait passer donc ces fragments archéologiques dans toute une série d'éprouvettes, donc on en tire un extrait, un résidu que l'on analyse et qui permet, moyennant une quantité d'algorithmes absolument effrayante, à proposer une date qui est dans une fourchette en général assez large, hein, et alors plus évidemment, plus on se rapproche des temps anciens, plus le carbone 14 est intéressant, parce qu'on n'a pas d'autres documents, souvent sur des sites préhistoriques, évidemment, on n'a pas beaucoup d'éléments de datation. Dès qu'on est dans de l'égyptien pharaonique, à plus forte raison, du grec, du romain, etc., il y a toujours dans le secteur un vase, une inscription, un monument qui va permettre de dater assez précisément l'ensemble d'un contexte, l'ensemble d'une couche. C'est surtout donc pour les périodes ou les régions sans documents, sans écriture, que ces techniques de datation sont utiles. Il y en a d'autres qui sont utilisées, mais ce n'est, encore une fois, en Égypte, ça reste d'un usage quand même relativement limité. Donc, toute une activité, encore une fois, post-fouille, qui se fait la plupart du temps, alors soit sur le terrain même, si les objets sont conservés sur le terrain, c'est la plupart du temps le cas pour la céramique, les ossements, etc., soit en bureau, en bibliothèque, il y a une partie importante de l'action des équipes archéologiques qui se fait loin du site, hein, et le retour au site est en général une portion relativement, un nombre de semaines, hein, entre 4 et 6, hein, c'est la durée moyenne des chantiers, qui ensuite génère encore une fois plusieurs semaines ou plusieurs mois de recherche une fois rentré en métropole. Alors, une des activités qui a pris maintenant beaucoup d'importance sur tous les chantiers, à la demande des collègues égyptiens eux-mêmes et du fait des encore une fois de l'évolution générale des pratiques archéologiques, y compris en France, c'est le souci de la préservation. Hein. Alors moi, quand j'étais étudiante en archéologie, on me racontait fouiller, c'est détruire. Alors maintenant, pas du tout. C'est fouiller, c'est conserver un minimum, penser à la présentation du site, penser à la lisibilité du site, et c'est ce qui fait que dans tous les chantiers maintenant, ce qui est d'ailleurs pas à l'avantage des archéologues, parce que tous les moyens humains et matériels qui sont investis sur la restauration ne le sont pas sur la fouille, donc c'est toujours un peu, l'archéologue a tendance à être privilégié, la nouvelle information est toujours un petit peu dépité quand il doit passer des semaines à restaurer des choses qu'il a déjà fouillées, déjà comprises, parce que pour lui c'est plus intéressant, mais c'est là que c'est intéressant pour le public, encore une fois, la façon dont on le présente, dont on lui rend les choses lisibles. Alors en Égypte, c'est relativement léger comme opération encore, on est assez chanceux finalement, dans la mesure où la plupart des structures sont en brique crue. Donc la brique crue, ça c'est un matériau qui est pas quand même très cher, ça se fabrique avec n'importe quelle terre qu'on peut ramasser pratiquement n'importe où, ça se fait encore maintenant, ça se fait à la main avec 2-3 ouvriers, on laisse sécher au soleil, on peut les utiliser. Donc c'est un matériau tout à fait, et on fait ça sur place, donc il n'y a aucun transport, c'est un matériau extrêmement commode. Alors ça permet effectivement de, en prenant bien soin, bien sûr, selon les consignes en application, de distinguer par des matériaux légèrement différents ou en introduisant des couches de différenciation, des couches de limite entre l'ancien et le récent. Ça permet donc de compléter les structures disparues, de les rendre plus lisibles. Je ne sais pas si là, ce que vous voyez sur votre écran, là, si c'est assez net, mais par exemple ici, on a un îlot de briques antiques, hein, qui est d'une couleur un peu plus foncée. Ici, un autre, et tout ça a été mis au cordeau, hein, bien aligné, pour que les gens qui visitent le site comprennent que le mur avait là un angle tout à fait net et n'était pas du tout l'affreuse termitière qu'on pourrait imaginer à première vue. Notre exemple ici de restauration, le long d'une voie monumentale, hein, il est bien évident que là, les restaurations faites avec des briques donc récentes, hein, dont la couleur est nettement différente des briques antiques, permet à la fois donc pour les visiteurs de lire le site et surtout pour les monuments d'être préservés, hein, parce que la brique crue doit être régulièrement chapeautée, si je peux dire, couronnée, puis enduite en façade, de manière à ne pas être abîmée par l'érosion éolienne, par la pluie occasionnelle, il pleut pas beaucoup en Égypte, mais ça arrive, etc. Donc on a toute une activité là de restauration qui s'est développée et qui devient une partie prenante maintenant des chantiers et qui diversifie la pratique de l'archéologue vers la pratique du conservateur, on va dire au sens propre du terme. Donc voilà quelques fils, encore une fois quelques pistes, hein, sur ce qu'est le travail d'une équipe archéologique en Égypte. Alors dans une deuxième partie maintenant, donc je voudrais vous présenter quelques-unes des problématiques les plus récentes finalement qui ont été développées dans les dernières décennies et qui ont quand même élargi et renouvelé notre réflexion et qui font vraiment avancer la discipline en la connectant avec d'autres différentes qui l'enrichissent. Alors, parmi les zones récemment explorées de façon intensive et pratiquement, on va dire par coïncidence, hein, plusieurs équipes de différentes nationalités se sont mises en même temps sur cette zone, c'est la côte de la mer Rouge. Ici, donc là on a une carte partielle de l'Égypte, et on a donc en face de la presqu'île du Sinaï, alors on va parler de travaux qui se passent soit au Sinaï lui-même ou sur la côte en face, ici le site de Sorna, d'Aïn Sorna, qui est aussi un lieu de villégiature des Kérotes, hein, à une centaine de kilomètres du Caire, le Wadi El Jarf, le Gebel Zed, donc toutes sortes de sites côtiers, souvent distants les uns des autres, qui ont fonctionné à des époques différentes, mais qui sont de façon intéressante très complémentaires quant à ce qu'ils nous disent de la circulation des anciens Égyptiens dans cette zone. Alors ici, par exemple, le site d'Aïn Sorna, donc qui encore une fois est un lieu enchanteur, vous voyez ce très beau golfe. Qui est tout à fait digne d'une carte postale touristique. Alors c'est pas tellement le cas. Ici, donc il y a effectivement un hôtel, un resort, comme on dit en Égypte, un resort touristique là, qui est l'hôtel, je sais plus comment il s'appelle, un très joli nom, très poétique. Le secteur s'appelle Aïn Sorna parce que Aïn Sorna, c'est-à-dire la source chaude, parce que il y a ici, donc c'est ce qu'on voit là, encore maintenant, une source d'eau douce. Alors pensez que dans un environnement comme ça, sur une côte désertique et au bord de la mer avec de l'eau salée, c'est extrêmement intéressant d'avoir une source d'eau douce, et depuis la plus haute antiquité, depuis la préhistoire, ça a été un point évidemment d'arrêt, voire d'implantation des humains. Alors pour vous donner une échelle du site, là en bas ce sont les tentes de l'expédition archéologique française, donc qui était, vous voyez c'est ces petits points, donc c'est une très belle montagne, ces montagnes qui tombent à pic dans la mer, c'est extrêmement spectaculaire, et le site a été repéré d'abord parce qu'on y a trouvé des inscriptions. Alors là, je crois que les pixels sur l'écran, ça doit être assez difficilement supportable, mais donc croyez-moi quand je vous dis qu'on a trouvé là des stèles inscrites égyptiennes en particulier, donc à partir du Moyen Empire, hein, donc en gros du début du deuxième millénaire, et il y a des inscriptions qui vont jusqu'à la période copte, à la période chrétienne, donc les premiers siècles de notre ère. Alors on s'est aperçu que sous la zone d'inscription, qui était donc cette face de rocher, vous voyez, qui est extrêmement un apic très spectaculaire, et la photo que je vous ai montrée était prise du haut de ce rocher tout à l'heure sur la mer en contrebas. On s'est donc dit que s'il y avait une inscription, il se passait là quelque chose, et effectivement, il se passait là des choses. C'est qu'au pied de la montagne, dans la montagne, étaient creusées des galeries qui servaient à des galeries, donc des tunnels, hein, d'une vingtaine de mètres de long sur à peu près 2 mètres, 2 mètres 50 de hauteur, et la même chose de large, qui avaient servi à ranger des bateaux. Et par une chance extraordinaire, donc il y a une douzaine de ces galeries, et par une chance extraordinaire, il y a une des galeries qui avait brûlé, et donc les parties de bateaux avaient été conservées sur place. Alors ça, c'était une extrêmement importante découverte, puisqu'actuellement, c'est le plus ancien bateau de mer connu, avec donc une technique bien connue, enfin qu'on connaissait par ailleurs en Égypte, mais dont on n'avait pas trop de témoignages archéologiques, qui était le système des bateaux cousus. Beaucoup de bateaux antiques et encore des bateaux modernes d'ailleurs sont cousus. Et les Égyptiens, donc, quand ils partaient sur la mer Rouge pour naviguer ensuite vers la Somalie, l'Arabie, etc., apportaient une première fois tous leurs bateaux en pièces détachées au bord de la mer, le montaient avec des cordes. Alors on a trouvé dans certains sites des cordes, je vous montrerai ça tout à l'heure. Attachaient, cousaient leurs bateaux, naviguaient, etc., revenaient de l'expédition, démontaient le bateau, le rangeaient, planche par planche, hein, le redémonter et le ranger sur cale. Alors on a des cales en bois qui séparent les planches en scène, donc tout ça parfaitement organisé, les cordes posées sur les planches, hein, pour pouvoir le remonter à l'expédition suivante, et selon la fréquence, donc chaque année, tous les 2 ans, tous les 5 ans, quand on avait besoin d'aller chercher des produits comme l'encens, en particulier en Arabie, hein, ou sur la côte somalienne, à ce moment-là, on remontait le bateau et on montait une expédition, mais on laissait dormir tout ce mobilier nautique, hein, pendant le temps séparant deux expéditions. Alors non seulement on stockait les bateaux, mais on stockait aussi tout le reste, dont je vous ai montré déjà tout à l'heure, tous ces tessons, donc on stockait tous ces jarres qui servaient à contenir l'eau douce, par exemple, tout ça était laissé sur place, hein, on stockait son matériel pour ne pas avoir à le transporter, c'était une technique tout à fait intéressante qu'on retrouvera aussi dans le désert occidental. Alors ce port d'Aïn Sorna non seulement a été extrêmement intéressant au point de vue des études de nautique ancienne, évidemment, puisqu'on n'avait pas du tout idée de la construction des bateaux de mer égyptiens. Les Égyptiens ne sont pas allés quand même tant que ça sur la mer, donc ça a été un acquis majeur. Et on a trouvé donc des traits extrêmement mystérieux, comme par exemple creusé dans le rocher cette espèce de cuve hein, qui est à peu près effectivement la dimension d'un bateau d'une quinzaine de mètres, avec des trous, enfin des endroits, pense-t-on, pour s'accrocher, pour mettre les pieds, qui était peut-être l'endroit où on remontait, une espèce de moule ou de coque dans lequel on remontait les bateaux, où on les nettoyait. Tout ça n'est pas fort clair. Alors la découverte de ce site de Sorna a été il y a une dizaine d'années, maintenant une douzaine d'années, a été vraiment un coup de démarrage à toute une archéologie nautique de la côte de la mer Rouge, hein, qui est un domaine entièrement nouveau, donc on n'avait pas du tout abordé précédemment. Et il y a 4 ans, une autre équipe française donc, a trouvé au Wadi El Jar un aménagement portuaire qui est plus ancien, qui date lui de la 4e dynastie, donc vers 2500, disons, avant notre ère. Et c'est la même chose là qui s'est révélée, c'est-à-dire que dans un environnement, vous voyez, qui était là aussi un peu lunaire, on aperçoit ici des petits trous qui, une fois nettoyés, sont visiblement des entrées de galeries, et c'est la même technique, des tunnels creusés pour pouvoir mettre au sec des bateaux démontés. Donc on une carte peut-être donne une idée plus claire de la chose. Donc on a ici la façade rocheuse qu'on voyait en photo. Vous voyez ces galeries qui ressemblent à des bâtonnets là. L'échelle est beaucoup assez réduite évidemment. Et il y en avait quand même des quantités. Donc ça veut dire que ces expéditions à chaque fois partaient à plusieurs bateaux et conservaient les bateaux encore une fois démontés en pièces détachées jusqu'à l'expédition suivante. Là, on est vraiment dans des périodes très hautes, hein, 2500 avant notre ère, des bateaux de mer. Alors malheureusement, il y a très peu de restes de bateaux eux-mêmes, mais on a quand même des traces, des esquilles de bois. Il est bien évident que quand les ports ont été abandonnés, normalement, les Égyptiens ont dû rapporter ces bois. Le bois était précieux, le bois d'œuvre, le bois de bateau. C'était du bois de cèdre, donc c'est quelque chose qui venait du Liban, c'était quand même du bois qui avait du prix. Et en général, on ne laissait pas traîner son bois dans les galeries. Après usage, on remportait les bateaux dans la vallée pour les ranger ou on les rangeait dans un autre port qui devenait actif. Parce que toute cette côte, là il faut être évidemment conscient de du poids du paléo-environnement, toute la côte a beaucoup changé de faciès, hein, comme la côte méditerranéenne. La mer a été tantôt plus haute, tantôt plus basse, donc la physionomie des portuaires a beaucoup changé. Les ports se sont déplacés pour suivre les mouvements de la mer. Et ça explique donc qu'on ait des périodes successives, mais assez limitées dans le temps. Donc à Wadi Jarf, la 4e dynastie, Sorna autour de la 11e, 12e, etc. Donc on a comme ça des alternances. Et un peu plus loin sur la côte de la mer Rouge, donc on a trouvé également, ça ce sont des collègues d'une expédition italo-américaine qui ont trouvé ce site-là, donc ce site de Gawazis, qui lui alors se trouvait, alors la carte n'est pas très jolie, mais elle est extrêmement parlante à mon avis, la mer était plus haute et donc entrait plus profondément dans les terres, donc il y avait ce que les collègues ont appelé une paléo-baie, et vous voyez ici ces petits vermicelles gris qui représentent les galeries donc creusées dans lesquelles ont rangé les bateaux, donc c'est exactement la même technique qui a été appliquée jusqu'à cette époque de la 18e dynastie, donc là on est vers 1650, hein. Les Égyptiens ont pratiqué sur ces différents sites, sur ces 3 sites qui ont été fouillés à quelques années d'intervalle, des technologies tout à fait identiques. Donc voilà la face excusez-moi, d'une de ces galeries un peu plus tardives du Wadi Gawazis. Malheureusement, beaucoup des stèles qui marquaient l'entrée des galeries et qui marquaient les dates et des expéditions successives et le nom du chef d'expédition ont disparu, ont été abîmés. Vous voyez, on voit très très bien d'après. Enfin, moi, je vois bien sur ma photo. Je ne sais pas ce que vous voyez vous sur l'écran. En tout cas, ici, on a des zones blanches hein, qui montrent que on est dans une zone corallienne là. Donc, les galeries se sont extrêmement fragiles. Et là, vous avez vu tout à l'heure hein, dans la fouille de Sorna, il faut étayer. Ce sont des galeries assez dangereuses, donc il faut bien étayer avant de se lancer là-dedans, parce qu'autrement, toujours le risque de se voir descendre le plafond sur la tête des fouilleurs, ce qui serait un petit peu ennuyeux. Alors, à Gawazis, on a trouvé des choses formidables en termes d'études nautiques. Vous voyez, par exemple, ici, ce safran de bateau de très belle taille hein, qui a été conservé intégralement. Mais généralement, encore une fois, ça doit être un accident ou une omission, une négligence. Mais normalement, les pièces de bateau, donc, soit étaient retaillées pour en faire d'autres plus petites, soit étaient, à la fin de quand le site était abandonné, remportées dans la vallée pour servir, pour être recyclées. Alors, à Gawazis, il y a une chose qui est absolument impressionnante. Alors, le site, malheureusement, n'est pas ouvert au public encore. Il y a une galerie complète, donc, encore une fois, 20 mètres de long sur 2 mètres 50 sur 2 mètres 50, entièrement remplie de cordes telles que les Égyptiens les ont laissées plier, encore une fois, en 1500 avant notre ère. C'est extrêmement impressionnant. Il a pu être prouvé par des collègues, justement, archéobotanistes, que ces cordes avaient été faites avec des roseaux qui étaient pris sur la côte même. Donc là, il y avait l'énergie grise, si je puis dire, était minimum. On s'arrangeait d'avoir tout sur place. Et à partir donc de ces différentes informations sur ces différents bateaux de la côte de la mer Rouge, il y a même eu l'expérience de construction d'un bateau dans des chantiers navals égyptiens, d'un bateau qui a effectivement réussi à naviguer de Suez donc jusqu'à peu près le site de Gawazis, donc avec un équipage d'une vingtaine de personnes. Bon, il paraît que c'est pas très confortable, mais enfin bon, les gens ne se sont pas, le bateau a tenu sur l'eau, quoi, il s'est pas retourné, et donc il est aujourd'hui encore, je crois, amarré sur la côte de la mer Rouge. Il s'appelle le mine du désert, et c'est une expérience donc qui montre la faisabilité de ces navigations en mer à l'époque ancienne. Donc toute cette problématique navigation mer Rouge nautique qui est quelque chose de relativement récent a pu être ainsi, par la conjonction de ces différents travaux, vraiment bien la compréhension a été bien améliorée. On a pu à travers plusieurs colloques faire connaître assez rapidement les résultats de ces travaux. Alors une autre zone de l'Égypte dans laquelle on a beaucoup travaillé, comme je disais tout à l'heure, c'est le désert occidental, hein, toute la partie qui sépare donc l'Égypte de la frontière, ce qui est aujourd'hui la frontière libyenne. Et vous voyez, vous êtes peut-être étonné par la multitude de points qui marquent des sites d'habitation, d'occupation, qu'on a trouvé dans ce désert, consécutivement aux travaux donc des collègues, surtout de l'équipe de Colonne, mais enfin aussi des collègues canadiens et australiens qui travaillent dans ces zones. Et ce sont des sites pour la plupart qui s'étalent entre l'Holocène, disons 10 12 000 avant, et puis le néolithique, un néolithique qui en Égypte dure assez tard, jusque vers 4500 en fait, et dans cette zone-là donc touche en fait communique avec la civilisation pharaonique, puisque apparemment les populations locales nomades sont restés avec les mêmes cultures et les mêmes pratiques jusqu'à l'arrivée des Égyptiens, et même après l'arrivée des Égyptiens, autour de 2500, ont continué à vivre dans ce désert et ont laissé des témoignages. Alors pour les époques très hautes, hein, on est là entre 8000 et 6000, on a dans l'ensemble, alors la carte là est à une autre échelle, mais c'est la même, ici la frontière libyenne et là le Nil, donc on a trouvé par exemple en quantité, cercle en céramique très mystérieux qu'on appelle des Clayton Rings, du nom de Clayton qui a été un des explorateurs marquants du désert occidental, et on ne sait pas du tout à quoi servent ces objets, donc c'est extrêmement mystérieux. Ce sont des cercles, vous voyez, en céramique, donc c'est pas très solide, avec généralement des couvercles même percés d'un ou deux trous, et quelquefois il y a même des petits dessins ou des incisions sur le corps de l'anneau lui-même. Alors, des gens qui ont pensé que peut-être c'était des formes qui servaient à piéger les animaux ou les oiseaux. Enfin, c'est pas très clair. Le fait est que les collègues, donc allemands, qui ont pu se promener dans le désert occidental et même un peu dans le désert oriental, on en trouvait un grand nombre. Hein, ce qui montre, alors là, c'est une des traces vraiment extrêmement claires de l'existence de nomades qui nomadisaient selon des très larges itinéraires. Hein, selon un axe d'ailleurs qui avait été à peu près celui du développement à l'époque préhistorique, enfin paléolithique, c'est-à-dire selon un axe en gros nord-est-sud-ouest, hein, prenant en écharpe le Sahara, qui à l'époque évidemment n'était pas le désert qu'il est maintenant, mais offrait encore des points d'eau, des sources, des ressources végétales, animales, qui permettaient aux nomades non seulement de passer, mais quelquefois de rester, hein, de monter des camps pour plusieurs semaines ou plusieurs mois. L'Égypte a connu, par exemple, jusqu'à la fin de l'Holocène, hein, jusque vers 6000, il y a eu un régime, par exemple, de mousson, hein, léger, mais enfin un régime de mousson avec des pluies régulières dans le désert qui alimentaient des plans d'eau, etc. Donc la vie était complètement différente, évidemment, de ce qu'elle est devenue ensuite avec le dernier assèchement qui a commencé justement au moment de la période pharaonique, hein, vers 2500. Là, le désert a commencé à devenir vraiment difficilement habitable. Alors de ce côté-là, on a des données tout à fait intéressantes. Donc je vous remontre là ma vision satellitaire du sujet. Donc entre l'oasis de Darla qui a été occupée, on pense, connue en tout cas des Égyptiens à partir de l'époque de Khéops, donc vers 2550 avant notre ère, et qui a servi de point de départ donc à des expéditions qui se dirigeaient tout droit vers le lac Tchad, bon, encore une fois avec un certain nombre d'étapes. Alors là, pour l'instant, on est un peu arrêté par ce plateau du Guebkebir, puisque au-delà, les collègues n'ont trouvé aucune trace de route égyptienne. Mais on sait qu'au Guebkebir, par exemple, encore dans les années 1900, il y avait assez d'eau, il y avait assez de ressources en eau pour faire vivre un petit village d'une centaine de personnes. Donc à l'époque pharaonique, ça devait être certainement aussi le cas. Il y avait peut-être même des communautés plus importantes. Alors quoi qu'il en ait été, donc un des aspects extrêmement intéressants de cette archéologie des routes de désert qui s'est développée là aussi dans les 10-15 dernières années, ça a été d'identifier des phénomènes qui avaient été vus déjà par les premiers explorateurs de ces déserts dans les années 30, comme par exemple ce site qui s'appelle Abu Ballas, dans une vieille photo de mars 1923, qui est en fait un amas de jarres à eau énorme, enfin des jarres qui font à peu près 60 litres, hein, c'est la jarre sérieuse, qui était donc empilée au pied d'une colline, un point marquant dans le paysage qui est quand même assez plat. Alors aujourd'hui, évidemment, il y a, si vous voyez la photo contemporaine, il y a beaucoup moins de ces jarres, hein, puisqu'il y a un tourisme de safari, comme disent les Égyptiens, qui est assez destructeur pour ce genre de choses et qui déplace et qui casse et qui abîme tout. Donc c'est assez désastreux. En tout cas, donc il y a quand même un certain nombre de points qui restent. Et les collègues donc ont pu déterminer, c'est tout le sens de cette cartographie, que à peu près tous les 25-30 kilomètres, il y avait comme ça des dépôts de jarres qui permettaient à une expédition partie de Darla où l'eau est abondante de se rendre au Guilf moyennant un certain nombre d'étapes. Bon, c'était pas vraiment facile, mais enfin ça se faisait. En ayant des réserves d'eau et de nourriture déposées à chacun de ces points d'étape. La route est également aménagée avec des cairns, hein, alors il y avait des choses pour faire boire les animaux, ça c'est un autre sujet, puis il y avait aussi des petits empilements de pierres, hein, ce qu'on appelle des cairns, qui permettaient de suivre les traces, hein, et de ne pas se perdre dans le désert. Et par exemple sur les photos satellites, vous voyez ici cette ligne qui est très nette, enfin je dis très nette encore une fois, je m'avance peut-être beaucoup par rapport à ce que vous voyez sur l'écran. En tout cas, vous voyez ce trait ici qui me paraît incontestable. Et ça, ce sont des pistes de pattes d'âne antiques, hein, qui sont encore visibles et qu'on voit très bien sur les cartes satellitaires et qui montrent donc ces tracés anciens de routes, lesquels étaient aménagés, encore une fois, non seulement avec de l'eau, mais aussi avec de la nourriture. Le déplacement se faisait en âne. Hein, le chameau n'est pas arrivé en Égypte avant l'époque perse, il a été surtout généralisé à l'époque hellénistique et romaine, donc on se déplaçait en âne. Bon, un âne normalement éduqué peut rester un certain nombre de jours sans boire, hein, s'il est vraiment bien dressé, il paraît qu'il peut passer la semaine entière sans boire, et puis il faut lui fournir à peu près 80 litres de boisson d'un coup, c'est-à-dire le contenant de ces jarres. Alors, encore aujourd'hui, il y a des ânes, hein, qui circulent, des caravanes d'ânes qui circulent au Soudan, par exemple, là, entre la vallée et puis le Darfour, avec des outres, alors ça c'est un système, vous voyez, c'est une photo tout à fait contemporaine, mais c'est un système proprement à l'antique, hein, des outres en peau d'animaux, hein, des animaux écorchés, et donc la peau sert pour contenir de l'eau, et ce sont des contenants assez souples, donc on peut, contrairement aux jarres qui elles sont rigides et lourdes, sont des contenants légers, dont on peut stocker deux ou trois sur le dos d'un seul âne, et ensuite donc on vidait les outres dans les jarres de réserve en quelque sorte qui était aux différentes étapes et on pouvait ainsi donc faire des réserves d'eau que l'expédition trouvait sur son chemin en revenant, donc ça était parfaitement organisé et on a trouvé également, il restait encore dans ces stations, des réserves de nourriture et des grains par exemple qui étaient laissés dans les jarres aussi d'une saison à l'autre, des céréales pour faire du pain et même des bottes de fourrage. Alors celles-ci sont d'époque ramesside, elles sont un peu plus récentes, mais c'est quand même ça en dit long sur l'organisation des Égyptiens en termes de logistique, c'est comme pour les hangars à bateaux, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Alors cette thématique des routes de désert, évidemment, est surtout bien connue pour les périodes hautes. Hein. Et ensuite, alors il semblerait que les Égyptiens aient adopté d'autres parcours. Qu'au deuxième millénaire, on ait un petit peu réactivé cette route. Puis ensuite, le trajet par le Nil vers le Soudan, enfin la Nubie soudanaise, était probablement plus pratique pour atteindre les produits africains qui intéressaient les Égyptiens, c'est-à-dire surtout les peaux d'animaux, l'ivoire, l'ébène, éventuellement aussi de l'encens qui pouvait arriver par ce canal. autre point environnemental qui a été tout à fait à l'honneur ces dernières années dans la pratique archéologique, donc toujours là on va retourner dans nos oases, on était à Darla tout il y a un instant, on va là plutôt regarder celle de Harga, une technique hydraulique dont l'existence en Égypte était totalement inconnue et qui s'appelle les canates. Alors malheureusement, je ne sais pas pourquoi on voit pas bien le fond, le bas de ma diapositive. Donc canate, c'est un mot persan en fait, et c'est un système, un aqueduc en fait, une conduite d'eau qui permet d'amener l'eau d'un point haut vers un point bas pour irriguer, hein, puisque généralement les sources artésiennes sont plutôt sur des hauteurs. Donc ça permet de d'irriguer un bassin agricole en contrebas. Et ces canates, donc, avec, comme vous voyez ici avant la fouille, n'étaient pas fort repérables dans le paysage, sauf à certaines petites dépressions et certains, au contraire, amoncellements de terre qui correspondaient à la creuse de ces conduites souterraines. Alors là aussi, quand on parlait de présentation des conservations, vous voyez qu'après les opérations de dégagement et de restauration, le tracé là est beaucoup plus visible, hein, du haut de la colline vers le bas, et là ça devient tout à fait reconnaissable. Alors, qu'est-ce que c'est que ces petites cheminées ? Là, ce sont en fait des regards qui avaient été aménagés pour, qui sont aménagés pour justement suivre hein, les, l'état de la conduite et pouvoir éventuellement descendre à l'intérieur et la nettoyer, la curer, l'approfondir si le besoin s'en fait sentir. Donc ça, c'est une canate en cours de nettoyage. Vous voyez, les cheminées étaient quelquefois abîmées, donc elles ont été remontées, puis tout ça a été ensuite remblayé. Certaines parties étaient construites, d'autres étaient creusées. Et ici, donc là, c'est de la restauration récente, mais c'est une pratique antique même, hein, qui consistait à tantôt avoir des parties en creuse, tantôt des parties construites. Donc l'eau qui descendait de la source artésienne circulait dans ces conduites. Quand la conduite ne marchait plus, se bouchait, on pouvait encore descendre par le regard, aller visiter la galerie et voir où ça n'allait pas. On s'est aperçu, alors cette technique est une technique extrêmement spécifique qui vient d'Iran et qui était connue uniquement en Perse. Et ce sont donc les Perses au VIe siècle qui l'ont implantée là, qui ont voulu certainement développer de nouveaux territoires agricoles pour alimenter la cour perse. Hein, et donc ils ont cherché à améliorer l'irrigation dans ces territoires pour pouvoir dégager des productions agricoles, céréalières en particulier, dont ils avaient besoin. Donc ils ont implanté dans les déserts d'Égypte exactement la même technique qu'ils avaient mise au point dans les déserts d'Iran. Et c'est comme ça que les canates sont arrivées d'abord à Harga, puis ensuite à Darla, et ensuite on s'apercevoir que dans toutes les oasis de la chaîne libyque maintenant, c'est une technique qui a été développée. Hein. Alors au début, évidemment, vous avez vu le terrain avant la fouille, on n'était pas vraiment au fait de la façon dont ça fonctionnait. Maintenant qu'on connaît le système, on en trouve à peu près partout. Il y a beaucoup de sites où elles sont identifiées ces dernières années. On a identifié vraiment un grand nombre. C'était devenu une technique usuel après le VIe siècle dans la culture des oasis. Et le système a été repris par les Romains, souvent simplement parce qu'il y avait moins d'eau à l'époque romaine puisque les Perses en avaient déjà prélevé beaucoup hein, sur les aquifères. Donc ils ont simplement recreusé, approfondi les galeries de manière à permettre à l'eau de descendre tout de même et éventuellement prolonger même ces systèmes de cheminées de manière à pouvoir faire vivre ce système qui a marché, enfin qu'on voyait encore au XIXe siècle et à peu près en activité, donc c'est un système dont la pérennité, l'efficacité ne faisait pas de doute. Alors à côté de ces systèmes creusés, il y avait aussi des canalisations construites, et on a trouvé également à Harga un dépôt, hein, à côté d'une canate, un dépôt de canalisation, hein, puisque quelquefois on tubait en quelque sorte hein, la galerie avec pour canaliser mieux le flux, pardon, avec d'énormes conduites en céramique. Celle-là date aussi de l'époque perse, donc c'est une technique ancienne. Alors, une fois qu'on avait conduit l'eau, donc après, on aménageait au bas de la descente un bassin, comme celui-ci par exemple, qui a été fouillé aussi dans la douche, dans la même région. Bassin qui est dont le fond est vaguement étanché par une couche d'argile hein, compacte, pavée. Et autour duquel donc se développaient des arbres. Alors on voit à l'œil nu certains restes végétaux un petit peu marrons, ici des restes de racines de palmiers, etc. Et là aussi pour les études de botanique, c'est extrêmement sympathique de pouvoir voir que c'était une zone à la fois où on avait des palmiers et des acacias, évidemment comme aujourd'hui en Égypte, et puis de la vigne qui était plantée sous les grands arbres, on avait donc de la végétation plus basse. Donc ça, c'est un système qu'on a reconnu, encore une fois, maintenant, dans les trois ou quatre oasis majeures du désert libyque. Dernière richesse du désert qui a été bien mise en valeur ces dernières années, les exploitations minières. Et ça, ça devient une thématique extrêmement à la mode, hein, si je puis dire, dans le... dans la pratique de l'égyptologie de terrain. Alors, vous voyez ici, c'est intéressant pour voir le faciès de ces déserts, de ce désert occidental, avec des montagnes résiduelles hein, qui restent au milieu de plaines d'érosion. Celle-là est marquée. Alors là, ici, vous voyez ce que c'est qu'un cairn. Ceux-là sont des cairns modernes qui ont été faits par les collègues fouilleurs qui ont travaillé sur ce site. Alors, on perçoit, hein, si encore une fois, je ne m'engage pas sur la netteté de l'écran, mais il y a ici, donc, sur cette terrasse, un petit muret construit hein, devant une falaise tout à fait naturelle. Et au pied de la falaise, donc, des trous, qui sont des trous, apparemment, dans lesquels on cachait le minerai qu'on venait chercher dans cette zone. Alors, on ne sait pas du tout, là, dans ce désert-là occidental, quel était ce minerai. On a son nom en égyptien, mais on ne sait pas ce que ça représente. Donc, c'est une ressource minérale précieuse, mais qui reste pour nous tout à fait mystérieuse. Donc, on voit cette cache avec devant le bloc qui servait à fermer la porte. Hein. On devait laisser là des outils hein, et des certainement donc le minerai pendant le travail des mineurs, et puis ensuite les outils qui n'étaient pas utiles de remporter, probablement d'autres de la céramique et ce genre de matériel un peu lourd qu'on laissait sur place. Et cette mine est une des plus anciennes qu'on connaisse, puisqu'elle date, elle aussi, de Khéops, donc de la 4e dynastie, vers 2550. Et dans une de ces grottes, donc on a trouvé, c'est pour ça que le site porte le nom de Montagne de Khéops, on a trouvé donc une inscription au nom du roi Khéops et une attestation d'expédition avec le nom des personnages qui faisaient partie du corps expéditionnaire. Donc manifestement, là, très tôt, les Égyptiens ont su qu'il y avait un type de ressource minérale spécifique dans ce coin-là, qui les a ensuite amenés à développer toute une occupation beaucoup plus durable et pérenne qu'on connaît jusqu'à l'époque romaine, hein, de plus en plus active. Au Sinaï, évidemment, on a aussi, dans toute cette zone-là, hein, énormément de traces des activités minières, certaines qui sont connues depuis longtemps. Donc, oui, il y a ici deux sites très, très fameux, le Wadi Marara et le Serabit el-Khadim, qui sont explorés depuis le début du XXe siècle. On a pu, en retournant dans ces zones, également en face, sur la côte propre de la... Enfin, sur la côte ouest de la mer Rouge, ce site ici, cette pointe qui s'avance dans la mer et qui porte le nom moderne de Gebel Ezzet. Là, on a pu avancer beaucoup, d'une part sur la compréhension de l'étendue des opérations minières des Égyptiens, leur ancienneté et les modalités de traitement du minerai. Alors, quelques paysages comme ça pour vous montrer la beauté de ces déserts du Sinaï. Ici, avec souvent au fond marqué de quelques arbres qui sont des acacias et d'une espèce qui pousse dans le désert qui s'appelle le Sayala. Qui est connu aussi en Nubie, hein, des arbres qui poussent, qui sont très petits, mais qui ont des feuillages très étendus et qui sont très appréciés, bien sûr, des animaux qui passent dans le désert ou des personnes qui viennent là en expédition. Donc ici, le plateau minier du Gebel Zet, avec tous ces trous qui sont, alors non pas des trous d'obus, on parle beaucoup de la commémoration de 14, là, ça y ressemble, mais en réalité, ce sont des entrées de mines. On venait chercher là de la galène et du cuivre. Éventuellement, dans la galène, on trouve quelquefois un peu d'or, mais c'est pas du tout le matériau majoritaire. Alors ce plateau minier du Gebel Zet, là aussi, on n'aurait pas pu y accéder si c'était une opération qui a eu lieu il y a une trentaine d'années maintenant avec le soutien logistique de Total, et on montait sur le plateau par hélicoptère pour installer le camp, hein, parce que c'est quelque chose qui est, enfin, on perçoit ici la hauteur à plusieurs centaines de mètres au-dessus de la mer, hein, c'est un paysage magnifique sur lequel les Égyptiens, outre les exploitations minières, avaient installé des petits sanctuaires, des petits habitats. Vous voyez, à flanc de rochers, là, ce sont des sites très difficiles d'accès, mais qui ont livré beaucoup d'informations intéressantes sur, justement, la façon dont les Égyptiens vivaient dans le désert, et sur le fait que ces expéditions minières n'avaient jamais cessé, même aux périodes les plus mal documentées de l'histoire de l'Égypte, hein, quand dans la vallée, on manque de documents, on en peut en trouver avec des noms royaux inconnus dans ce genre d'endroits. cette occupation des déserts, si nous nous voilà de nouveau dans le Sinaï, est très ancienne, hein, puisque là on voit, alors là je reconnais qu'il faut avoir un œil de terrain un petit peu pour distinguer ici une ligne de rochers quand même plus sombre, hein, et en fait ce sont des petites murettes qui ont été construites en batterie, qui sont des fours primitifs simples de fonte du cuivre. Qui là aussi date des tout débuts vraiment de la dynastie, de la quatrième dynastie, donc dans un certain nombre de centaines d'années avant notre ère, et qui montre donc que les Égyptiens, très vite, en trouvant le minerai de cuivre, n'ont pas pris, ont optimisé en quelque sorte le travail en fondant le cuivre, en extrayant le cuivre de sa gangue sur le terrain même, en profitant des vents très très forts sur tous ces plateaux sinaïtiques et au-dessus de la mer Rouge. Donc ils ont installé leur four à réduction de cuivre directement à côté des mines, de manière à redescendre dans la vallée en portant un minimum de matière et non pas des tonnes de matériaux inutiles. Alors ça c'était aussi un des grands apports de la fouille de Sorna, de mettre au jour des ateliers de cuivre en quantité. On a au moins 10 ou 12 batteries de fours pour la fonte du cuivre, qui est alimenté probablement avec des arbres. Bon, ça n'a pas dû faire du bien à l'environnement à l'époque, effectivement, ça a dû déboiser assez radicalement. Mais le fait est qu'il y avait apparemment assez de végétaux, donc pour nourrir ces fours à fondre le cuivre, qui se prennent comme des tables de cuisson finalement. Donc on faisait chauffer dans des creusets, hein, le cuivre, et ensuite on recueillait donc en bas de la chambre de chauffe des petites billes de cuivre qui pouvaient donc être transportées très facilement vers la vallée du Nil. Alors là aussi il y a eu une intéressante série d'expérimentations qui peut être faite par les équipes de l'IFAO, avec une table qui a été reconstruite, alors il y a l'air flambant neuf, effectivement, elle est neuve, qui a été construite donc sur le modèle des tables antiques, avec toutes sortes d'instruments de mesure, etc., pour arriver à, en chauffant la malachite, donc à extraire du cuivre. Ça a été fait en coopération avec un laboratoire scientifique de Besançon, et il y a eu des résultats vraiment intéressants sur cette technologie de la fonte du cuivre, dont on avait bien idée évidemment, mais pas dans le détail des opérations. Là maintenant on est tout à fait au point là-dessus. Donc là c'est un des programmes aussi sur lesquels les fouilles récentes ont contribué à bien avancer dans notre connaissance de la technologie antique. Donc écoutez, je crois que j'ai largement, mais quand même tout petit peu excédé mon temps de parole. Je vais donc m'arrêter là, donc en soulignant encore une fois le côté extrêmement dynamique, hein, de ces travaux archéologiques, et le fait que maintenant la rapide communication des informations dans la communauté scientifique fait qu'on peut avoir vraiment des programmes internationaux intéressants, et les équipes travaillent dans une optique de complémentarité des données qui est extrêmement sympathique, avec des échanges fréquents. Donc c'est un endroit où il est bien agréable de travailler pour différentes raisons. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous aurez quelques questions.
Ben, merci beaucoup. Je tiens le micro à votre disposition pour les questions.
Ces routes du désert, là, donc est-ce que c'est une découverte de l'archéologie, ou est-ce qu'il y en avait déjà des connaissances par des documents anciens en Égypte? Parce que j'ai souvenir que c'était une société quand même assez bureaucratique et comptable, donc mettre en place une logistique pareille, c'est assez surprenant qu'on le découvre maintenant, quoi.
Alors oui. On peut répondre à ça plusieurs choses. Alors effectivement, il y a beaucoup de documentation, mais il y en a, plus on se rapproche de notre ère dans le temps, et plus la documentation est importante. C'est-à-dire que pour le troisième millénaire, ce que les égyptologues appellent l'ancien empire, en gros, donc entre 2700, la pyramide à degrés de Djoser à Saqqara, et puis 2100, la fin de l'ancien empire officiellement, on a surtout des documents dans les capitales, à Memphis, hein, donc Saqqara, Giza. Alors, j'ai pas parlé, j'aurais pu, mais j'ai pas voulu, parce que là, quand je commence à brancher là-dessus, je suis interminable. Je travaille, moi, depuis près de 30 ans, donc, dans l'oasis de Darlas, dans un site magnifique qui s'appelle Balat, et on a découvert là des archives provinciales qui sont, on avait quelques documents épars, hein, dans la vallée du Nil, mais là, c'est des archives complètes dans le palais des gouverneurs, donc c'est une documentation absolument exceptionnelle. Et effectivement, on voit la mention de pays étrangers dont les noms sont totalement inconnus, on ne sait pas du tout où ils sont situés, qui doivent être effectivement du côté du Gulf Kébir, du Gebel Hoyna, toutes ces zones fort peu peuplées aujourd'hui. Et donc le premier point, c'était ça, c'était qu'on avait un déficit de documents sur ces zones-là. On avait ensuite, pour de la part des archéologues, un déficit d'accès, parce que les oasis, c'était assez difficile d'y aller, hein, jusqu'aux années, on dirait 30, quoi. Enfin oui, jusqu'à la croisière jaune de Citroën, on n'allait pas tellement dans ces coins-là. Donc ça a commencé à s'ouvrir dans les années 20-30, plutôt du côté d'explorateurs qui n'étaient pas du tout archéologues, donc ils ont signalé des trucs, hein, dans les années 20 déjà, ils ont dit « oui, là, tiens, c'est curieux, il y a plein de jarres au pied de cette colline, etc. » Mais enfin, bon, ça n'allait pas plus loin, et plus les archéologues n'avaient pas les moyens d'aller là, pour des questions de coûts, pour des questions d'infrastructures. Et donc, c'est là, il faut encore sortir son petit drapeau. Ce sont quand même les Français qui, dans les années 75, Serge Sonneron en particulier, qui a été un directeur de l'IFAO tout à fait actif et remarquablement visionnaire, qui a positionné l'Institut français dans ces régions en demandant la concession de fouilles dans les oasis, à la suite de travaux d'un collègue égyptien qui s'appelait Ahmed Fahri, qui avait beaucoup travaillé, qui était un monsieur du Fayoum, qui aimait bien les oasis et le désert. Il faut dire qu'en général, les Égyptiens n'aiment pas beaucoup aller dans le désert, donc c'est pour ça qu'ils n'étaient pas vraiment eux-mêmes tournés vers cette exploration. Mais Ahmed Fahri avait beaucoup travaillé là, lui-même, et il a été un des premiers à travailler à Dakhla, sur l'ancien empire. Donc il avait signalé qu'il y avait des choses, il avait publié des choses, il est mort très tôt, donc il n'a pas eu le temps lui-même de fouiller. Et à ce moment-là, c'est l'IFAO qui a récupéré la concession. Et du coup, quand on a commencé à fouiller là, dans les fin des années 70, alors on s'est aperçu que oui, il y avait des trucs, il y avait une ville entière, il y avait un cimetière, etc. Donc ça a fait venir, on a eu un effet d'attraction sur les missions étrangères, et donc maintenant l'oasis de Dakhla est devenue, en fait, on est surbooké d'archéologues. Il y a maintenant 5 ou 6 missions qui sont des grosses missions, une américaine, une australo-canadienne, des Italiens, etc. Donc l'oasis maintenant est rempli de missions qui fouillent un peu partout. Et les collègues allemands, eux, se sont mis, donc à l'université de Cologne, qui ont cette optique environnementale, se sont mis dans ce programme d'exploration du désert, plus spécifiquement parce qu'ils sont plutôt préhistoriens. Et en cherchant la préhistoire, ils ont trouvé l'histoire, en fait. Et c'est comme ça, donc, qu'on a pu identifier tous ces aménagements. Mais c'est la même chose au Sinaï. Enfin, c'est vraiment le développement du terrain qui fait qu'on peut comprendre mieux certaines choses. Alors, les collègues du Wadi El-Garf ont eu la chance de trouver des papyrus dans leur galerie, enfin des papyrus de jetés négligemment sous les blocs qui servaient à fermer les galeries après usage. Et là, on va avoir plus d'interactions entre des sources qui sont des sources de terrain et puis la réalité. Mais ceci dit, enfin, on dit en Égypte qu'il y a plein de sources, mais en réalité, bon, le fait archéologique, ce que je disais tout à l'heure, en discutant avec notre mécène, notre invitant ici, Patrick Barthé, quand on voit la proportion de textes par rapport à la masse de réalité archéologique, l'enregistrement, ça doit être du 0,01%, hein, et les Égyptiens, c'est leur vie, pas tout le temps. Enfin, nous, c'est l'impression qu'on a, parce qu'évidemment, on n'a que le point de vue des scribes et de l'élite gouvernante, hein, mais si on se rapporte à l'idée de certains collègues qu'il y avait 1% des Égyptiens au troisième millénaire qui maîtrisait l'écriture, qui est peut-être pas encore, c'est peut-être un peu généreux même comme ratio. Bon, ben ça veut dire que les 99% autres faisaient leur vie sans prendre à chaque fois le formulaire CERFA correspondant. Donc c'était, il y a quand même une large partie de la vie des Égyptiens qui nous échappait jusqu'à maintenant, hein, qui maintenant apparaît quand même de façon beaucoup plus détaillée dans certaines zones en tout cas. Et là, on a la chance que les sites sont conservés aussi. Ça, c'est quand même. C'est quand même assez, assez remarquable.
Bonjour. Si, on m'entend, oui. Vous avez dit tout à l'heure que sur ces routes, justement, il y avait des endroits où on déposait de la nourriture, de l'eau, du fourrage. Mmh. Et est-ce qu'on sait qui déposait cette nourriture-là ? Est-ce que c'était les expéditions elles-mêmes qui, au passage, laissaient des choses ?
Oui.
D'accord.
Oui, probablement. C'est-à-dire que alors moi j'ai à Balad, j'ai quelques textes où on parle effectivement d'un potier, par exemple, qui va préparer la route du chef de, on ne sait pas quel chef, enfin de quel endroit, puisqu'on ne connaît pas le toponyme. Encore une fois, tous nos problèmes, c'est ça, hein, c'est qu'on a une série de sources. Sur les oasis, on a très très peu de choses avant le Nouvel Empire, avant le milieu du deuxième millénaire. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a quelques noms, quelques représentations. Mais ce sont des zones qui, encore une fois, il y a 50 ans, étaient complètement inconnues, hein, sur lesquelles on n'avait rien du tout. Donc, quand on voit la masse d'informations qu'on a maintenant, c'est quand même bien intéressant. Alors, on peut pas non plus échapper à l'idée qu'il y avait, de toute façon, il faut bien imaginer que dans l'Égypte, ce qu'on appelle l'Égypte pharaonique, nous, ce sont les gens, le monde de la vallée, hein. Mais en réalité, dans les déserts, il y avait une activité nomade soutenue. Ceci dit, ces gens-là n'intéressaient pas les Égyptiens, donc ils n'interfèrent que très rarement avec les sources égyptiennes. Simplement, on n'en parlait pas. Enfin, je veux dire, vous avez, qu'est-ce qui va rester du 20e au 21e siècle, par exemple? Imaginez le nombre de gens qui vivent dans les rues, par exemple, dans les villes modernes, enfin peut-être dans vos milieux qui sont plus ouverts, moins peuplés, etc. Mais vous allez dans une ville comme Paris, par exemple, là, vous sortez au métro Bastille, vous avez des centaines de mètres de clochards sur les trottoirs. Bon, ces gens-là, qu'est-ce qu'il en restera dans les sources au 25e siècle? Peut-être pas grand-chose, quoi. Donc, tout ce monde-là qui vivait à la périphérie du monde organisé par les Égyptiens, bien organisé par l'élite et les scribes égyptiens, étaient des gens qui n'avaient pas de raison d'apparaître dans les textes, sauf si, alors, t'entends, oui, on a des mentions un peu plus tard du commerce, de la police des déserts, des choses comme ça, mais c'est extrêmement ponctuel, quoi. C'était des gens, les nomades, c'est comme les bédouins aujourd'hui en Égypte, quoi, hein, qui, à part dans le Sinaï, font pas tellement de problèmes, enfin, oui, dans le Sinaï, font vraiment des problèmes maintenant, mais qui, pendant des décennies, des millénaires, enfin, ont fait leur vie à la périphérie du monde habité de la vallée, sans vraiment apparaître dans les sources égyptiennes, ni en bien ni en mal, enfin, simplement, on les voyait pas, quoi, ils sont, c'est comme s'ils n'étaient pas là. Mais en fait, ils existaient, donc on peut pas nier que les Égyptiens eux-mêmes, certainement, ont eu l'idée d'aller dans le désert par cette route, parce que les natifs, qui eux étaient nomades, leur ont expliqué que là, oui, si on allait par là, il y avait de l'eau, il y avait du commerce africain, et c'était par là qu'il fallait aller. Donc certainement, cette expérience-là, elle est passée quelque part des populations indigènes, si on peut dire, aux colons de la vallée, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler, hein. C'est quand même un phénomène de colonisation, donc les gens qui venaient de la vallée. Une fois, je faisais une conférence en Égypte, et puis je disais les Égyptiens, alors il y a eu un collègue archéologue égyptien qui m'a repris en disant « Non, mais les gens des oasis, c'était aussi des Égyptiens. » Alors oui, ils le sont devenus, mais au départ, c'était pas ça, quoi. Au départ, c'était des populations nomades qui, elles, n'avaient pas voulu se sédentariser et qui continuaient à faire une vie, probablement en fonction de ce qu'il y avait comme ressources en eau encore disponibles, quelques mois ici, quelques mois là, vivant de la chasse, etc. Et pour comprendre ces mondes-là, on a intérêt, là, de nos jours, on a quand même maintenant beaucoup de documentation, et dans 20 ans, on aura certainement encore mieux, et on comprendra encore mieux les choses, mais c'est vraiment une chaîne continue par rapport à la préhistoire. C'est-à-dire que nous, évidemment, en Égypte, on voit, oui, alors il y a la dynastie Zéro, là, à ce moment-là, il y a un type qui arrive avec une couronne sur la tête, etc. Mais dans la vraie vie des vrais gens, si je peux dire, hein, ça se passait pas comme ça. Et il y a une continuité absolue entre le néolithique et le troisième millénaire, hein, jusqu'à le moment où ça change, c'est vers 2000 avant, parce que là, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'Égypte, elle commence à plus pouvoir faire son jeu sans être ouverte sur la Méditerranée. Et là, elle commence, si on peut dire, à l'échelle de l'époque, à se globaliser, à se mondialiser et à être plus tournée vers le sud qu'elle n'était fermée sur elle-même, quoi. Mais on comprend bien ces phénomènes, encore une fois, quand on connaît tout le passé préhistorique récent, et quand on voit comment les populations nilotiques elles-mêmes se sont installées dans la vallée du Nil. C'est-à-dire que maintenant, avec les travaux des préhistoriens dans tout le Sahara, par exemple, ce que je disais tout à l'heure, on voit très bien cette espèce de vaste mouvement qui prend en écharpe le continent africain pour aller jusque vers les rives de Namibie et autres. Et c'est des mouvements continus. Et ces mouvements-là, on les saisit. On a des traces en Égypte, par exemple, de phénomènes absolument incroyables au Soudan, de connaissance de saisonnalité des déplacements. Au Soudan, par exemple, à travers l'étude justement des ossements des arêtes de poissons en particulier, s'apercevoir qu'il y avait des moments où, juste avant la crue du Nil, quand le Nil était particulièrement bas, il y avait des poissons qui restaient pris dans les flaques, hein, puisque le Nil commençait à baisser, il y avait un étiage, donc bon, il n'y avait plus beaucoup d'eau, il y avait des poissons qui n'arrivaient plus. C'était également la période apparemment de l'accouplement, puisque c'était vers le printemps, hein. Et donc les populations préhistoriques savaient très bien tout ça. Et donc, à ce moment-là, ils installaient leur camp sur le bord du fleuve, qui était très bas, même dans le lit du fleuve. Et ils vivaient donc sur les poissons qui étaient là pendant très longtemps. Ils en mangeaient, ils les séchaient, etc. Donc, c'est leur ressource de l'année. Ensuite, le Nil commençait à remonter, ils quittaient le camp, ils allaient ailleurs. Hein, et c'est toute cette... on a tous lu la guerre du feu. Hein, c'est, voilà, toute cette saisonnalité des circulations qui faisait que les gens avaient des modes de vie, tantôt ici, tantôt là, c'était tantôt la vallée, tantôt le désert... au-dessus d'Arla, par exemple, il y a un plateau sur lequel, pareil, on a pu démontrer que quand il y avait encore quelques faibles pluies, donc jusque vers 6000, 5000 avant, il y avait là des plans d'eau. Et au moment du printemps, donc les gazelles, pareil, en avril-mai, venaient mettre bas sur le bord de la mare. C'était sympathique. Alors, évidemment, les populations avaient repéré ça et venaient chasser à ce moment-là. Donc, eux-mêmes, ils montaient. D'habitude, ils étaient dans la vallée, en bas. Ils montaient sur le plateau avec leur troupeau, avec leurs vaches. Et tout le monde vivait là. Il y avait des campements. Alors, peut-être une partie de la communauté qui restait ailleurs. Mais, donc, ils campaient là, mais pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, quoi. Et donc, ils vivaient des animaux pareils. Donc, ils les chassaient, etc. Donc, on s'en est aperçu parce qu'on a trouvé un nombre absolument incroyable de fans de gazelles dans les ossements animaux. C'est absolument pas normal. Et donc, là, c'est là qu'il y a eu cette explication par un phénomène de saisonnalité. Et donc, ils venaient, ils vivaient sur ces ressources-là. Et les prélèvements étaient toujours très adaptés. Hein. Ce qui a fait, d'ailleurs, c'est assez étonnant, d'ailleurs, dans ces coins-là. Enfin, moi, j'y suis depuis un petit moment. Puis, il y avait eu des études assez approfondies des populations locales. Toute la vie dans les oasis a basculé dans les années 60, finalement, quand les moyens techniques ont permis des forages profonds. Mais jusqu'à ce moment-là, toutes les populations vivaient. La population ne se développait pratiquement pas. La population en 1960, c'est quasiment la même qu'à l'époque romaine, quoi. C'était vraiment quelques dizaines de milliers, parce que les gens vivaient de la ressource et ils l'épuisaient pas. Au contraire, ils prélevaient juste assez pour qu'elle puisse se renouveler, qu'ils puissent rester là, quoi. Pour l'eau, pour la nourriture, tout était calculé au plus juste, et puis ça avait fonctionné pendant des millénaires, quoi. Bon, évidemment, alors maintenant, on est dans des trucs complètement, complètement fou, avec des forages à 1000 mètres, ils sont en train d'épuiser les aquifères, et bon, d'après certains experts, enfin, on entend un chiffre inquiétant, puis après on n'entend plus trop, etc., mais dans 20 ou 25 ans, il n'y aurait plus d'eau du tout dans les oasis, parce que là, on vit actuellement, enfin, je dirais, puisque j'y suis aussi, sur des aquifères qui sont assez peu profonds, mais qui sont fermés, hein, c'est de l'eau qui est prisonnière dans des couches d'argile, quoi. Donc, à un moment donné, ben, quand la lentille d'eau va être vide, ça prendra le temps que ça prendra, mais vu l'exploitation aberrante qui est faite maintenant avec des forages qui jour et nuit, avec l'évaporation, sont en train de pomper, bon, ben, ça va pas durer éternellement, hein. Donc, forcément, dans quelques temps, ça sera vraiment tranquille. On pourrait retourner avec nos jarres d'eau, avec nos outres et nos ânes, et là, on pourra vraiment travailler tranquillement, quoi. On n'aura plus de problème de démographie galopante et de pression des cultures. Ça sera tout à fait calme.
Juste une petite question géographique. Est-ce qu'on a une idée assez précise de la géographie de l'Égypte à l'époque des pharaons, dans le sens où les recherches, jusqu'où les recherches pouvaient aller, et dans quelle direction, et quelle était l'influence des pharaons, jusqu'à quel niveau dans l'Afrique? Voilà, quoi. Parce que je me doute bien que la carte de l'Égypte, avec les droites aussi,
c'est assez... Oui, alors ça c'est... Alors vous dites géographie peut-être au sens plutôt de... Quoi, vous voulez dire géopolitique ou bien comment vous entendez géographie? Alors justement, ça c'est un des gros problèmes, hein. C'est qu'il n'y a pas du tout d'interférence. Alors ça commence à se faire par le biais justement, des préhistoriens, et par le biais des gravures rupestres. Parce que là, il y a tout. Alors maintenant, ça commence à être ce qu'on appelle le rock art dans les publications spécialisées, l'art rupestre. Ça commence à être vraiment bien connu. Et là, on voit que dans toute cette chaîne de. Alors, j'aurais dû prendre une carte un peu plus grande. Mais alors, il y a une zone absolument passionnante. Hein, c'est tout l'Orient du Sahara. Parce que là, il y a des cavernes, enfin, avec des gens. Donc, il y en a un peu en Libye, mais il y en a aussi en Égypte du côté du. Je ne vais pas avoir la carte à la bonne échelle pour aller assez loin, malheureusement. Mais on a toute une série de un peu comme ça là. Vous voyez, on est entre les deux. Alors effectivement, du côté, ça c'est la frontière avec la Libye, d'accord. Donc du côté de la Libye, là, vers la grande mer de sable qui s'étend à peu près par ici. Il y a ce point-là qui est extrêmement intéressant. Donc ça c'est le Gilf Kébir, bon. Et puis ça c'est cette espèce de montagne qui s'appelle le Gebel Owaynat, qui est pile poil à l'intersection des frontières donc libyennes, soudanaises et égyptiennes. Et c'est tout à fait près du Tchad, hein, en fait. Et donc l'idée, vous voyez, si on prend la carte un peu plus loin, donc le lac Tchad il est par ici. Et donc l'idée c'est qu'il y avait des arcs comme ça qui passaient par ces trois points et qui arrivaient là. Alors le problème, c'est que quand vous êtes au Gebel Owaynat, par exemple, c'est assez, ou même d'ailleurs quand vous remontez, moi j'ai eu la chance de pouvoir faire ça, c'est une excursion absolument fantastique, vous remontez le long de la frontière libyenne, hein, pour aller justement du Gilf Kébir vers la Grande Mer de Sable, Et là, vous n'avez aucun moyen de savoir si vous êtes en Égypte ou en Libye. Vous, de temps en temps, vous avez un vague bidon avec un poteau qui vous dit, voilà, ici, c'est de ce côté-là, c'est la Libye, de ce côté-là, c'est l'Égypte. Donc, dans l'Antiquité, ça doit être encore plus compliqué. Mais dans l'époque moderne, c'est très compliqué parce qu'on ne peut pas du tout... par exemple, c'est très compliqué d'aller travailler au Gebel Weinat. Il vous faut une triple autorisation de fouille. Égypte, alors déjà délicat parce que zone militaire, frontière et tout. Soudan, et ce qu'on a du Soudan, c'est pas non plus en ce moment, c'est pas vraiment la villégiature. Et Libye. Libye non plus ces jours-ci, voilà. Et là, on est dans des endroits où... déjà, même si on était que dans un cadre égyptien, c'est des coins hyper compliqués. Il faut toujours y aller avec des gardes frontières, etc. C'est pas facile d'accès. Il faut une logistique aussi, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau non plus. Donc, faut partir assez bien équipé. Et politiquement, les frontières politiques actuelles empêchent absolument toute communication. Alors, ça s'arrange un peu plus tard aux époques, quand on a un empire hellénistique, un empire romain, parce que là, on voit bien qu'il y a des correspondances, par exemple, entre les deux rives de la mer Rouge. Alors, déjà, du côté Éthiopie, Arabie-Éthiopie, là, on commence à être mieux... mais c'est ponctuel, quoi. Et encore une fois, les gens communiquent pas vraiment. De temps en temps, oui, vous voyez un rapport sur un tesson égyptien qui a été retrouvé en Érythrée, mais c'est extrêmement difficile à suivre, quoi. Donc il faudrait qu'il y ait vraiment un enregistrement systématique et vraiment des meilleures communications, quoi, entre les communautés archéologiques, ce qui est quand même assez compliqué. Et il y a beaucoup de ces pays où il n'y a pas de communauté archéologique vraiment bien établie, autrement que dans des zones vraiment très ponctuelles, quoi. Donc c'est assez complexe. Alors justement à Gawazis, là, dans Gawazis qui est à peu près par là, à peu près à mi-chemin entre les, on a des tessons qui ont l'air de venir de la rive d'en face. Donc là on commence à voir qu'il y avait des mais encore une fois les pays autour encore maintenant, hein, le Soudan n'écrivait pas, l'Éthiopie n'écrivait pas, l'Arabie n'écrivait pas, donc tous les gens qui n'ont pas laissé de traces écrites, à part la culture matérielle qui était quand même pas hyper développée. On n'a rien de vraiment significatif avant l'époque grecque, l'époque romaine, quoi. Alors bon, après tout le reste est très bien connu, hein, pour tout ce qui est la Syrie, la Nubie, tout ça on connaît, mais dès qu'on va un peu plus loin, là on est coincé par l'absence de sources, quoi. Donc on peut pas dire grand chose. Ça devait certainement aller assez loin, il devait y avoir des expéditions, il y a des sources égyptiennes qui nous le disent, mais bon, on n'est pas vraiment sur le détail, on a des visions très très vagues. Ah oui, tout à fait. Non, tout à fait. Bien sûr. Non, c'est comme les gens qui étaient à Darla. Il y avait, ils ont tous des noms égyptiens, mais il devait y en avoir moitié qui n'étaient pas des égyptiens. Enfin, en combien de fois, c'était les mêmes quelque part à des degrés différents. Parce que les gens qui s'étaient installés dans la vallée du Nil, hein, vers 7000, 6000 avant notre ère, d'où est-ce qu'ils venaient? Ils venaient du désert. Donc c'est des communautés du désert. Ça c'est maintenant la vision qu'on a. Si vous voulez, plus personne ne pense, parce que le Nil n'était pas très praticable à ce moment-là. Quand il y avait plus d'eau dans le désert, qu'il y avait des puits de mousson, qu'il y avait etc. Le Nil, il était pas du tout fréquentable. Il débordait tout le temps, il y avait plein de bras partout, ça changeait tout le temps. C'était un facteur de dangerosité plus qu'autre chose. Il y avait beaucoup de gros animaux, donc ça devait être bon, pas mal pour chasser, mais en même temps plus dangereux pour vivre, etc. Alors que le désert était tout à fait, au contraire, tout à fait habitable, avec des ressources en eau suffisantes, une faune, flore correcte, etc. Donc effectivement, c'est le phénomène d'assèchement, de dessiccation du climat, comme on dit, qui a ramené les gens vers la vallée du Nil. Et puis il y a les communautés qui ont décidé de rester parce qu'elles vivaient autrement, qu'elles avaient d'autres ressources, etc. Mais une partie qui s'est sédentaire là sur le fleuve, qui lui-même s'est domestiqué à ce moment-là, puis est devenu plus canalisé, donc plus gérable. Et puis les gens qui sont restés dans le désert en très petit nombre. Mais c'est pareil au Sinaï, par exemple, hein, où au départ on a des communautés tout à fait partagées, quoi. Et puis petit à petit, les Égyptiens, donc, ils s'installent dans le delta, qui à l'époque, encore une fois, quand le Nil n'était pas. Le problème du Nil à l'époque haute, enfin préhistorique, c'est qu'il n'était pas. Il n'y avait pas qu'un lit du Nil, quoi. Ça changeait tout le temps, selon la crue. Donc c'était quelque chose d'assez difficile à gérer, quoi, pour des implantations. Et puis les modes de vie étaient de toute façon des modes de vie, comme on a dit, de camps saisonniers, quoi. Donc c'était une autre façon de faire.
C'est quasiment la même question. Donc, à l'époque de Ramsès II, j'ai souvenir qu'on y avait des conflits permanents avec les Hittites, je crois.
Oui.
Est-ce qu'il faut considérer qu'aux époques antérieures, donc Khéops est beaucoup plus ancien, donc l'Égypte, c'est un pays qui n'a pas vraiment d'ennemis aux frontières. Alors, bon, ça c'est la question générale, et il semblerait quand même que l'archéologie pourrait donner des éléments. Est-ce qu'on retrouve dans ces déserts des traces de fortins militaires? Est-ce qu'il y a du matériel militaire dans les fouilles, quoi? Est-ce qu'il y a des gardes qui surveillent toutes ces mines? Enfin, est-ce qu'il y a la crainte d'une puissance différente qui pourrait s'affronter avec les Égyptiens?
Alors, au troisième millénaire, pas tellement. Je dirais l'ennemi est plutôt intérieur à cette époque-là, parce que c'est des questions, des difficultés économiques internes. Mais du côté, par exemple, alors à Darla, où je connais quand même un peu la situation, il y a effectivement des contacts avec les populations, je dis pas limitrophes, parce qu'elles devaient être quand même assez loin, vu la longueur des routes, les populations voisines, disons, qui étaient commerciaux et certainement d'échanges et relativement courtois. Puis encore une fois, alors dans les textes, moi c'est dit clairement dans mes textes, qui sont d'ailleurs des tables, j'aurais pu vous en montrer nous deux, c'était sympathique, qui sont des tablettes en argile, hein, ce qui est quand même pas hyper courant dans la documentation égyptienne, à part les tablettes d'Amarna. Donc là, il y a des lettres où on voit que y a des potiers égyptiens qui vont faire des jarres pour des gouverneurs étrangers. On s'occupe de leur envoyer de la nourriture, on leur envoie des animaux pour qu'ils aient à manger sur la route, etc. Donc il y a toute une coopération. Et en fait, les Égyptiens devaient être commanditaires, ils devaient sous-traiter certaines commandes royales, par exemple, pour le commerce africain, plutôt que d'aller eux-mêmes se déplacer et puis aller chercher les produits qu'on leur commandait. Ça, on le sait bien. Alors ça, là on a vraiment des bonnes informations du côté d'Assouan Éléphantine dans les tombes des chefs d'expédition d'Éléphantine, où on a là des biographies qui nous disent effectivement, voilà, je suis parti en Afrique chercher des produits pour le roi, etc. Et là, le personnage, il va lui-même. Mais à l'Éléphantine, ils étaient réputés. En fait, il y a des quantités à la fin de l'Ancien Empire, des quantités de chefs d'expédition qui sont manifestement des personnages absolument indépendants du pouvoir, qui lui fournissent les produits africains dont il a besoin pour la cour, pour récompenser les fonctionnaires, etc. Donc ça, on a pas mal de sources. En fait, à Balat, ils écrivent pas beaucoup. On a que la documentation, enfin la correspondance, par exemple, officielle hein, du gouvernorat. Et il y a quand même un fait incontestable, c'est que vers 2100, 2050 avant notre ère, toute l'installation des Égyptiens, en particulier le centre de pouvoir, a été détruite par le feu massivement, quoi. Donc là, mais ça c'est plutôt du côté de la razzia de populations nomades, apparemment, que des choses structurées, puisque tout de suite après les gens se sont réinstallés au même endroit. Donc il n'y a pas eu de... Et donc il n'y avait pas beaucoup de danger extérieur pour l'Égypte à cette période, parce que les pays voisins n'étaient pas très structurés. Mais après, ce qui s'est passé, c'est que l'Ancien Empire, bon, il y a comme toute chose, hein, il y a une période de développement, d'apogée, puis après ça, il y a eu toutes ces difficultés à partir de la 6e dynastie, où le roi n'arrivait... Enfin, le système ne marchait plus, quoi. Le système était trop développé et ne fonctionnait plus. Le roi n'arrivait plus à faire face aux demandes de tous ses fonctionnaires. Il avait laissé l'appareil administratif se développer, ça n'allait plus. Et donc, à ce moment-là, l'Égypte est entrée dans une forme de récession qu'elle a essayé de contrer par un développement économique du côté, justement, de l'Afrique. Alors, c'est à ce moment-là qu'il y a ce gros développement à Darla, l'implantation de cette route hein, qui date de la fin du deuxième millénaire aussi, cette route d'Abou Ballas. Mais du côté de l'Afrique, par exemple, ça commençait à aller mal. Du côté de l'Afrique, il y avait à la troisième cataracte la puissance de Kerma qui commençait à monter, puis à presser vers la frontière égyptienne au sud. Donc ça n'allait pas si bien. Mais c'était pas une occupation. En même temps, les occupations égyptiennes étaient tout le temps de type militaire. C'est-à-dire que les Égyptiens qui s'installent quelque part, bon, il y a un mur, c'est fortifié, il y a forcément des gardes. Comme c'est encore le cas aujourd'hui en Égypte, il faut absolument qu'il y ait des flics partout, etc. Donc c'est quelque chose qui était déjà apparemment dans les comportements, quoi. On vérifiait, par exemple, ce que j'ai pu comprendre, c'est que on vérifiait qui passait sur les routes. Les gens qui voyageaient sur les routes pouvaient pas voyager librement s'ils étaient affiliés au système égyptien. Il fallait qu'ils aient un ordre de mission, un signe de reconnaissance, quelque chose pour être identifié. Mais il y avait des postes de garde au-dessus des routes, donc on surveillait les routes. Alors est-ce que ça tient à cette période-là, qui était justement parce qu'il y avait du côté de l'Ouest beaucoup de pression? On n'en sait rien, hein. C'est ce qu'on appelle les Libyens. Alors là, sur les Libyens, il y a eu des volumes qui sont écrits pour dire qu'on n'y comprenait rien, hein. Ce que les Égyptiens appellent les Libyens, d'où est-ce qu'ils viennent, comment ils vivent. L'archéologie de la Libye, là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. C'est le no man's land, là, à part la préhistoire. Donc là, on manque un peu de contexte, là, pour ces questions-là.
Je peux en dire plus sur l'archéologie nautique.
Alors, je mets à part Alexandrie, hein, d'accord. Actuellement, ce que j'appelle archéologie nautique, alors elle est même pas subaquatique là dans ce qu'elle a voyé, puisque les bateaux étaient. Donc, non, je peux vous en dire beaucoup plus. Simplement que il y a des spécialistes qui travaillent là-dessus. En fonction souvent de modèles ethno-archéologiques, c'est-à-dire de ce qui se fait, alors en particulier vers le Yémen, vous savez, il y a encore pas mal de bateaux cousus, Oman et tous ces coins-là, donc il y a des parallèles ethnographiques. Et puis se fonde aussi sur des modèles indiens, hein, puisque il est, enfin, ce qui est assez clair aussi, c'est qu'il y a eu assez tôt des échanges technologiques, on va dire, hein, non seulement dans le bassin méditerranéen, ce qui est assez normal, et les Égyptiens eux-mêmes avaient des bateaux qu'on appelait les bateaux de Byblos, parce qu'ils étaient assemblés apparemment selon des techniques plutôt de la façade méditerranéenne, disons. Mais assez tôt aussi, on sait que par exemple à l'époque romaine, il y a des transferts de technologie, même à l'époque grecque, hein, assez importants, du monde indien vers l'Empire romain, et l'Égypte est sur la route. Alors, pour faire des études de nautique, oui, il y a des gens quand même assez élaborés. Il y a des archéologues, hein, qui sont spécialisés là-dedans. Nous, en France, on a un collègue très performant qui s'appelle Patrice Pommet, qui travaille à Alexandrie, à Sorna, en fait, dans tous les endroits où il y a des bateaux à découvrir. Et finalement, on en sait assez pour pouvoir se lancer à faire des bateaux à la mode des Égyptiens, hein. Là aussi, avec un peu d'ethno-archéologie locale, puisqu'il y a encore quand même des chantiers navals traditionnels dans le delta du Nil. Mais celui-là a été construit dans le delta. Et donc, on a réussi à l'amener du delta, encore une fois, jusqu'au milieu de la côte de la mer Rouge. Donc, c'est pas si mal. Alors, il y a eu aussi, conjointement, j'en ai pas parlé parce que c'était pas tout à fait le même type de bateau, mais des bateaux de Nil, alors qu'ils ont été tout le monde codé la barque de Khéops, bien sûr. Hein. Mais alors, il s'est trouvé que fortuitement, là, dans les 15-20 dernières années, il y a aussi pas mal de découvertes sur la construction de bateaux de Nil, cette fois. Il y a eu une énorme trouvaille à Abydos de la deuxième dynastie, donc là on est quand même très tôt dans le temps, vers 2009-2008, quoi. Des bateaux qui ont été enterrés avec les tombes royales de la deuxième dynastie, dont on a trouvé, alors ils n'ont pas été entièrement fouillés, ils ont été enterrés dans des coques en briques. C'est très curieux comme histoire. Donc on leur construit des petits cercueils en briques comme ça, et on a une vingtaine de bateaux qui sont rangés devant les monuments funéraires le bâtiment funéraire du dernier roi de la deuxième dynastie, le père de Djoser. Et ces bateaux, donc, sont des bateaux qui ont circulé sur le Nil pour transporter probablement le mobilier funéraire. Enfin, c'est des vrais bateaux, c'est pas des bateaux symboliques ou la barre de Khéops est probablement aussi un vrai bateau, hein, mais c'est aussi des bateaux cousus d'ailleurs, c'est les mêmes techniques. Et donc là, ce sont des barques qui sont plus petites, qui font une dizaine de mètres et qui sont plutôt du côté de la petite barque, quoi. Hein, tandis que ces bateaux-là étaient probablement des bateaux un peu plus hauts et puis d'une assez bonne longueur, enfin, qui devaient être plus importants en taille. Alors plus récemment, il y a 3 ans, en été, en plein mois de juillet, là c'est pas le moment pour les scoops archéologiques en Égypte, il y a une équipe française justement de l'IFAO qui a trouvé dans une nécropole connue depuis longtemps, pareil, qui avait été fouillée au début du XXe siècle, ils ont mis au jour, à côté d'une tombe de particulier, un bateau décousu là, avec toutes les planches rangées les unes à côté des autres, hein, ça, c'est très très, le bois parfaitement conservé, vraiment impeccable. Donc ça sera au musée du Caire, au musée égyptien. Le musée qui devrait ouvrir dans 2-3 ans s'ils arrivent à se sortir de leurs problèmes de révolution qui n'en finit pas là. Voilà, mais c'est tout ce que je peux vous dire. Moi, je ne suis pas une spécialiste vraiment de la question.
Oui, à propos des bateaux cousus, je ne comprends pas très bien comment ce que vous voulez dire. Qu'est-ce qui était cousu? C'était les
planches sont cousues les unes aux autres.
Mais là, par exemple, sur la photo, on voit donc des cordes au niveau de...
Oui, non, mais c'est du décor. Mais si vous voulez, normalement, les planches... Vous voyez ici une planche, par exemple, qui est pas de la même couleur que l'autre. Et les planches sont cousues. Il y a un système d'assemblage par des tenons. C'est-à-dire que les planches sont percées. Enfin, il y a des mortaises. Et elles sont tenues par des tenons. Et en plus, après, il y a des trous pour passer des cordes. Qui traverse les planches et qui relie les planches entre elles. Mais il y a beaucoup de choses cousues. Enfin, c'est la même technique que pour les cercueils, par exemple. Les cercueils en bois, ils sont cousus. Ils sont pas... Le métal était rare, si vous voulez. Donc, on n'agrafait pas les choses, on les cousait aux époques anciennes. C'est une chose assez... Et encore en Oman, aujourd'hui, les bateaux sont cousus. En Inde, il y a des régions où on fait des bateaux cousus. C'est-à-dire qu'ils sont assemblés avec de la corde. On perce les planches. Alors, après, on fait l'étanchéité. Alors, soit avec des... Ça s'est vu à Sorna. Soit avec des petites lamelles de cuivre. Alors à Sorna, c'est peut-être particulier parce qu'ils étaient dans un contexte minier de cuivre, donc ils avaient du cuivre en abondance. Donc il y a des petites lamelles de cuivre qu'on rentrait dans les trous pour boucher les trous, si vous voulez, en quelque sorte. Hein. Ou alors probablement avec de l'étoupe, enfin, ou des végétaux, du bourrage de végétal, quoi. Mais ça devait prendre l'eau complètement. Ceci dit, ils ne faisaient pas de longues routes non plus. Hein. C'est-à-dire que là, c'est du commerce, enfin, disons, le trafic, c'est sur la mer Rouge... au maximum, quoi. De la même façon que quand ils prenaient la Méditerranée, c'était plutôt du cabotage, si vous voulez. Donc, ils devaient effectivement embarquer pas mal d'eau, mais comme les étapes étaient assez courtes, bon, ben, ils s'arrêtaient, enfin, en cabotant comme ça, puis ils devaient couper tout le temps, quoi. Ça devait pas être super, super au point, leur histoire. Mais enfin, bon, ça ne coulait pas, apparemment. Ça ne coulait pas. Mais encore aujourd'hui, alors moi, je ne suis pas, encore une fois, je ne suis pas une spécialiste du sujet, mais encore, enfin, vous allez voir un coup sur Internet, je ne sais plus comment ça s'appelle, ces bateaux d'Oman, là, qui sont magnifiques, c'est des choses qui sont tout à fait connues, enfin, dans la nautique moderne, quoi.
Je crois que ça s'appelle des
boutres. Oui, je ne sais plus, c'est un nom un peu arabe, je pense, sur Oman, je ne sais plus comment. Enfin, en tout cas, c'est des choses qui sont, c'est des techniques qui sont encore maintenant pratiquées, parce que justement, c'est moins cher, ça permet de. Le bateau, et finalement, c'est une optique durable du bateau, c'est-à-dire que quand il y a une partie abîmée, on peut la remplacer assez facilement, etc. Donc, ça a un tas d'avantages. Comme disait l'autre, ça se casse vite, mais ça se répare facilement. Donc, ça, c'est quand même un gros avantage pour le durable. Oui, maintenant, oui, pratiquement. Ben, d'autant qu'en plus, ce sont pas des objets. Comment dire, pour nous archéologues, c'est passionnant, c'est fondamental. Mais enfin, c'est la céramique, les planches en bois, c'est pas le genre de choses que vous allez voir exposées dans les musées. Enfin, ça a une valeur documentaire, on va dire, plus que muséale, quoi. Donc, ça reste effectivement en Égypte. Après, ça reste dans des réserves. Alors, quelquefois, ça va dans des musées locaux, mais assez peu souvent. Et la plupart du temps, ça reste donc à côté des, enfin, dans chaque zone, dans chaque région d'Égypte, il y a un magasin une réserve de fouilles, enfin, qui est quelque chose d'officiel qui appartient au service des antiquités et qui est, on fait une demande d'autorisation de travail quand on veut aller voir le matériel qui est là-dedans et puis voilà, et on va travailler, enfin, dans un bureau et on travaille, il y a des inspecteurs qui s'occupent de garder tout ça, qui ont des registres d'inventaire, etc. Donc, qui vous donnent les objets et vous pouvez travailler dessus puis les publier sans problème. Enfin, la plupart du temps, les gens s'arrangent quand même de faire le plus gros du travail dès que les objets sortent de la fouille, quoi, parce que c'est là qu'on est le plus libre de les manipuler, on peut les avoir tout le temps à disposition, etc. Puis après, à la fin de chaque saison de fouille, il y a une campagne d'enregistrement, donc d'inventorisation par les autorités égyptiennes qui, à ce moment-là, donc récupèrent les collections et puis les mettent à l'abri dans un magasin. Enfin, à l'abri, ça n'a pas été tellement à l'abri ces derniers temps, que vous avez peut-être entendu, puis il y a eu quelques désordres, mais enfin, en gros, quand même, globalement, c'est à l'abri, puis les voleurs ne prennent pas la céramique ni les morceaux de bois en général, donc c'est assez tranquille. Mais il y avait, alors à une époque, il y a eu des partages de fouilles, mais ça, c'était il y a longtemps, hein, c'était avant la révolution nassérienne, je veux dire, avant 52, il y avait des régimes de partage de fouilles extrêmement avantageux pour les missions étrangères. Alors maintenant, il y a une théorie qu'on peut encore de temps en temps avoir un partage, mais ça reste exceptionnel et c'est sur des objets vraiment modestes. Enfin, c'est pas sur des objets de prestige, quoi. Là, maintenant, tout ça est très très surveillé. Puis il y a pratiquement plus de missions étrangères qui demandent des partages de fouilles parce que la plupart des pays qui fouillent depuis longtemps sont bien pourvus en collection. Donc, on n'a plus tellement besoin d'avoir de nouveaux objets, encore une fois. Puis il y a des prêts qui sont possibles. On peut aussi emprunter dans les musées. Enfin, les expositions se font en général par des prêts entre plusieurs musées. Donc on peut faire venir des objets, y compris d'Égypte. C'est fort cher, mais ça se fait, pour faire des expositions avec des objets particuliers.
Et est-ce que tout est cartographié, répertorié, tous les sites intéressants, entre guillemets, ou est-ce que vous avez encore espoir de faire des grandes découvertes passionnante avec des objets précieux ou rares?
Ouais, tout le temps on fait des découvertes passionnantes. Après, je crois que les problématiques aussi ont beaucoup changé parce que je ne sais pas si vous avez entendu là cet été, l'automne dernier justement, des collègues de la mission d'Armante en Haute-Égypte ont découvert 5 têtes royales tout à fait par hasard, enfin, sous un dallage. Voilà, donc on peut toujours découvrir des choses exceptionnelles, des choses inattendues, etc. On se dit, maintenant, on en sait quand même beaucoup, et un objet seul, maintenant, ne fait plus l'histoire. Enfin, c'est plus l'époque de découverte, la fin 19e, où c'était la chasse à l'objet, la chasse à l'objet de musée, etc., indépendamment du contexte. Maintenant, on prête tellement plus d'attention à tout ce qui est autour de l'objet, enfin, à son environnement, que finalement, quand on a ce genre de découverte, enfin, on est plutôt plus ennuyé qu'autre chose, parce parce que ça génère un tas de contraintes et de pressions absolument effrayantes sur les missions. C'est un peu plus travaillé, faut tout arrêter, la presse arrive, etc. C'est pas forcément ce qu'on vient chercher quand on va travailler en Égypte, mais il y a toujours effectivement des choses qui sortent complètement inattendues, quoi. Donc, je dirais que le bénéfice maintenant est quand même plus souvent scientifique que muséal, quoi.